Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, heureux hasard du calendrier 2020 commence bien puisque le 1er janvier étant tombé un mercredi, nous avons repris le travail hier et c'est déjà vendredi. Le week-end nous tend donc les bras, au programme citronnade chaude et potage détox pour oublier les excès des fêtes et surtout chasser de nos mémoires les souvenirs parfois traumatiques de cette soirée du 31 qui se rejoue chaque année immuablement comme dans le film Un jour sans fin mais sans Bill Murray, avec un tonton porté sur la galéjade selon le triptyque de l'horreur Gougère Picard, Calembour, que le
Champagne,
pour vous. Ouais, alors laisse-moi finir. Alors le colonel, il rentre, il se dessape, puis on lui voit les couilles.
Tous ensemble, nous allons essayer d'oublier tout ça. Bienvenue dans l'équipée sauvage, le grand tournoi qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1. Ils seront quatre en compétition, un seul d'entre eux repartira avec la précieuse couronne de chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus passionné. Pour compter les points, ma précieuse complice, ma fidèle amie, avec qui nous sommes toujours, je dois le dire, sur la même longueur d'onde. Elle me connaît si bien qu'elle devance souvent mes pensées, comme hier, quand j'ai essayé de flatter notre invité Mathieu Béliard, le présentateur de la matinale d'Europe 1. Mathieu, on est ravis de vous recevoir. Les gens doivent le sentir le matin à votre écoute, mais il peut toujours y avoir un doute. La personne qu'on écoute est-elle aussi sympa dans la vie qu'au micro ? Dans votre cas, avec Eva, on est en mesure de lever le doute.
Ah bon ?
Bien, super, merci. Bonjour Eva Rock.
Je ne m'y attendais pas à votre question. Bonjour Mathieu,
alors,
bonjour à tous.
Ce que je vous propose aujourd'hui, oui, afin qu'elle ne se braque pas d'entrée, c'est que je vais présenter l'invité tout seul.
Oui,
bonjour Mathilde Amel.
Bonjour.
Comédienne, auteur et depuis quelques années metteur en scène. Votre dernière pièce, Monsieur X avec Pierre Richard, est actuellement à l'affiche du théâtre de l'Atelier à Paris. Je le dis d'emblée, je suis très excité de vous rencontrer.
Ah bah tu m'étonnes.
Contrairement aux insinuations finaudes d'Eva, pas du tout pour ça, mais parce que pour vous suivre de loin depuis quelques années, depuis notamment Le Banquet, qui revient d'ailleurs à l'affiche mi-janvier à Paris, j'ai l'impression que contrairement à beaucoup d'artistes qui à 35 ans ont l'impression qu'ils ont tout donné, qu'ils ont atteint leur apogée artistique, vous, à l'inverse, vous avez su totalement vous réinventer en tant qu'artiste à un moment.
J'ai essayé, ouais.
Vous avez réussi, Mathilde, mais vous avez le succès public, vous avez aussi le Molière, vous avez eu le Molière de la mise en scène pour Le Banquet. C'est une réussite.
Ah oui, parce que là, je me rassemble, en fait. Je rassemble toutes les disciplines qui m'ont traversée. J'ai été danseuse avant d'être comédienne. La musique est mon socle de base de vie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Il n'y a qu'une partie de ce que je savais faire qui était exploitée en tant que comédienne, mais il me manquait quand même des choses. J'avais envie de raconter des histoires et puis j'avais envie de trouver un langage qui m'est propre avec tout ce qui m'a traversé, toutes mes passions mélangées, quoi.
On va en parler longuement pendant ces deux heures, mais j'aimerais juste dire une chose. Quand on change de... Vous n'avez pas changé de métier, mais vous étiez essentiellement actrice. Là, devenir metteur en scène, c'est quand même un autre métier, auteur de pièces. Souvent, quand on change comme ça, qu'on bifurque, on a tendance à y aller un peu sur la pointe des pieds, à rentrer dans un registre classique. Vous, vos pièces sont, on va le dire, elles sont sans dialogue. Enfin, la marque de fabrique Mathilde Amé, maintenant, c'est ça. Enfin, c'est quand même un concept. C'est très poétique, c'est très surréaliste. C'est vraiment un univers... Enfin, je sais pas, je suis impressionné, tout simplement, je vous le dis. On va en parler longtemps, on va parler de cette pièce. Monsieur X, le temps de vous présenter les forces en présence. À ma gauche, il peut d'ores et déjà s'asseoir sur mon vote, car bien que pas rancunier, je n'oublierai pas les mots par lesquels il m'a accueilli ce matin. Alors certes, les excès des fêtes se lisent sur mon visage, de là à me saluer en s'exclamant
« Bonjour Grishka Bogdanov !»
Oh, n'exagérons pas. Mathilda, je vous présente Nicolas Caro, notre expert littérature et vacherie. Bonne année quand même à vous, Nicolas. Alors, avec quel sujet comptez-vous enfin marquer quelques petits points dans l'équipée sauvage en 2020? Parce que je ne vous donne pas votre place au classement, elle n'est pas très très flatteuse.
Un grand sujet, un beau sujet, les quatre filles du Dr March qui viennent d'être adaptées au cinéma. Et donc j'avais envie de vous parler du roman.
Ah, vous revenez au roman, vous ne faites pas la critique
du
film.
Je suis critique littéraire.
De Greta Gerwig. À ses côtés, Mathilda, elle est à la rédaction d'Europe 1, ce que Beyoncé est à la pop musique. Une référence, une icône, une reine. Notre spécialiste environnement, Anne Le Gall, est actuellement en tête du championnat européen des meilleurs journalistes. Elle gagne quasiment à tous les coups, grâce notamment à la clarté de ses explications, comme hier, sur cette nouvelle espèce hybride d'ours polaire qu'on appelle Grolard.
En fait, Grolard ou Pizli, c'est la contraction
de quoi?
Pizli, oui. Grolard ou Polar Bear, ouais. Grizzly.
Ok, bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous, bonjour Mathilde Amet.
Bonjour.
Ah ouais, alors aujourd'hui, c'est un mystère que vous allez éclaircir pour nous. Pourquoi est-il devenu quasi impossible de trouver des tomates ou des courgettes bio françaises sur nos étals?
Il y a un mystère quand même depuis le 21 décembre au rayon fruits et légumes, c'est qu'on ne trouve plus de tomates bio françaises.
Elles viennent d'Espagne, toutes.
Alors qu'on trouve des tomates bio italiennes ou espagnoles, effectivement, pourquoi, je vais tenter de répondre clairement à cette question.
Quel mystère, mystérieux. Merci Anne, le programme est donné, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Mathilde Amet qui nous accompagne cet après-midi, alors que deux de ses pièces sont ou vont être jouées en ce mois de janvier à Paris. Monsieur X au Théâtre de l'Atelier avec Pierre Richard et Le Banquet au Théâtre de Paris. Deux pièces différentes avec néanmoins, je le disais, un point commun. Au-delà de la poésie et du surréalisme qui en émane, l'absence de dialogue. Pourquoi se priver de la parole? Qu'est-ce que ça apporte?
Moi, j'ai envie de stimuler le spectateur. J'ai envie que l'espace théâtral soit un endroit où on voit quelque chose de très différent. Je déteste l'idée qu'on sache à quoi on s'attend quand on va au théâtre. Donc j'essaye de proposer un langage qui rend le spectateur un petit peu plus aigu dans son observation. Aussi parce qu'il y a beaucoup de paroles creuses, je trouve. Il y a beaucoup de paroles qui endorment. Il y a beaucoup plus de paroles nulles que de paroles virtuose. Il y en a au théâtre, mais enfin, bon, j'allais pas rivaliser là-dessus. Je trouve que tout a déjà tellement été écrit de manière géniale. J'ai cherché, moi, à créer quelque chose qui m'appartienne, un langage qui soit le mien. Et je trouve, comme disait Françoise Dolto, que tout est langage. Et que tout est parlant et tout est évocateur. Une démarche, une façon de s'asseoir, une expression, un geste de la main, tout raconte quelque chose.
Une grande précision, hein, c'est au millimètre, cette pièce, monsieur. Pierre Richard dit: enfin, je réintègre mon univers avec Mathilda, celui de Keaton, de Chaplin, de Tati. J'en ai trop dit, le silence est d'or. Elle me propose de rêver avec elle de tout ce qui ne se dit pas et qui en dit bien plus.
Oui, mais je trouve que... on dit souvent que le corps trahit la pensée. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la vérité, finalement.
Et quel meilleur outil, pardon pour ce mot, que Pierre Richard, l'acteur du corps par
exactement.
Excellence.
Exactement, il y a eu Tati en France qui avait une signature corporelle. Aujourd'hui, c'est Pierre Richard, pour moi, l'acteur par définition du corps. Et moi, je travaille beaucoup sur le corps, sur l'expression corporelle. Et Pierre, c'était vraiment... Alors bon, j'ai écrit Monsieur X vraiment sur mesure pour lui.
Sur mesure pour lui. Ah oui. Et une autre question, pardon, il ne faut pas que je déborde sur cette partie, mais la musique d'Ibrahim Malouf, elle a été conçue dès le début, elle est venue se greffer sur Avant. D'accord, c'est là-dessus.
C'était conçu avant, tout est fait avant.
Les sons, je les ai faits avant avec Guillaume Duguay qui travaille avec moi depuis le début. Parce qu'en réalité, quand j'écris, j'entends. Moi, je trouve que le langage sonore, le son a une force d'évocation qui est plus forte que la vision, puisque la vision s'arrête à ce qu'on voit. Or, le son, ça nous plonge dans le ressenti de façon très infinie, finalement. Donc, avec Ibrahim, on a travaillé avant.
Le son nous plonge dans le ressenti, ça tombe bien, on est en radio. Sa nouvelle pièce, Monsieur X, va vous étonner au Théâtre de l'Atelier à Paris. Mathilde Amet est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, ma chère Mathilda, il sonnera peut-être bientôt à votre porte pour vous demander s'il peut voir votre bibliothèque, principe de son émission hebdomadaire. Mais attention, avant que Nicolas Caro débarque chez vous, pensez un peu à faire le tri parmi les livres que vous mettez en évidence. Notre confrère Laurent Mariotte avait oublié. Il s'est trouvé con.
Il y a beaucoup d'écrivains américains, je remarque. Il y a Bret Easton Ellis.
Ouais, ça c'est pas moi.
Il y a Sylvia Plath.
Ouais, ça j'ai pas lu.
Ça c'est votre femme.
Ouais, c'est ma femme. Ouais.
Je sais pas si vous partagez ça avec votre femme, mais il y a le Kama Sutra aussi.
Ah, ça, alors ça c'est un des premiers trucs qu'on a acheté. Il y en a partout. Regarde, il y en a un là aussi. Mais... Ah non, c'est très important en couple le Kama Sutra. Et évidemment, ça se lie à deux. Hein.
Planquez vos penthouse. Nicolas Caro arrive aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'une nouvelle adaptation au cinéma. J'ai envie de dire une énième adaptation au cinéma. Il nous parle d'un roman impérissable, Les Quatre filles du Docteur March. À tout de suite.
L'équipe Sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes continue. Des journalistes dont certains, après 4 mois d'émission, n'ont toujours pas compris que je votais moi aussi pour désigner le meilleur d'entre eux. Citons par exemple Nicolas Caro. Nicolas qui, en tant qu'expert littérature, devrait être familier de l'expression « scier la branche sur laquelle on est assis » et qui pourtant, à chaque fois qu'il en a l'opportunité, me met un petit taquet, comme dernièrement avant Noël avec Ludivine Sagnier.
Vous aimez Noël, Ludivine ?
Ouais.
Elle a compris Mathieu Noël.
Eh bien, Nicolas Caro, vous partez donc d'office avec moins un point. Mais notre invitée Mathilde Amet est tout ouïe. Parlez-nous donc des quatre filles du Docteur March.
Mais oui, puisque donc les...
Que je n'ai pas lu. Je l'avoue, je le confesse.
Du Docteur March, oui, mais c'est comme tous les classiques. Vous ne l'avez peut-être pas lu, mais vous les connaissez quand même. Vous savez par exemple qui est Joe.
Non.
C'est... Bah, si.
Non, je suis nul sur les quatre filles de Docteur March. Je vous dis, vous avez tout à m'apprendre.
Alors, immense classique. Le titre en anglais, ça je l'ai appris à l'occasion du travail sur cette chronique, c'est Little Woman.
Non.
Ah bon ? Ouais, c'est marrant. Publié en 1868. Maintenant, question piège, qui est l'auteur ? Louisa May Alcott. C'est dingue, personne ne connaît l'auteur des quatre filles du docteur March. Non, mais n'ayez pas honte, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Louisa May Alcott, elle est complètement inconnue, alors qu'elle a été publiée en France chez le même éditeur que Jules Verne. Peut-être aussi parce que c'est son seul succès, ou peut-être parce que son roman Les quatre filles du docteur March est tellement puissant qu'il a fini par effacer l'auteur elle-même. Peut-être aussi parce que c'était une femme et fin du 19e.
Bon, aussi, voilà.
L'histoire, je vous rappelle, nous sommes aux États-Unis dans le Massachusetts. C'est la guerre de sécession. Le docteur March a été mobilisé par l'armée du Nord et ses quatre filles et leur mère restent donc à la maison. Quatre filles avec chacun un caractère différent. C'est sans doute l'une des raisons du succès du livre. Chacun peut s'y reconnaître, même si la plupart des filles veulent être Jo, la cadette, n'est-ce pas, Eva Rock, la plus aventurière, la plus libre. Il y a Meg, l'aînée, 16 ans, celle plus raisonnable. Puis il y a Bess, douce et gentille. Et Amy, 12 ans, Amy. La dernière, c'est la reloue. Orgueilleuse, capricieuse. On les observe évoluer, on suit leurs péripéties quotidiennes et amoureuses.
Mais à vous écouter, on dirait un roman jeunesse.
Ben oui, mais même si, comme tous les grands romans de littérature jeunesse, on peut les lire adultes avec un autre regard. Et ça marche aussi bien. Greta Gerwig, donc, qui adapte Les quatre filles du docteur March, dit ceci. Jo March m'a donné confiance et envie d'écrire. C'est grâce à elle que je suis derrière la caméra. C'est pas rien quand même. C'est encore très moderne. C'est même pour beaucoup un manifeste féministe. Une émancipation. Pour l'époque, c'était carrément transgressif. Et voilà, ce sont des romans qui traversent les générations finalement, comme La Comtesse de Ségur par exemple, des livres qui peuvent encore être lus tels quels par les enfants d'aujourd'hui. Mais il y a une tendance nouvelle dans la littérature classique jeunesse, c'est la mise au goût du jour. Par exemple, le Club des Cinq, vous connaissez, ah, David Blyton, a été retravaillé. Avant, on pouvait lire des phrases comme « Claude Dorcel était pensionnaire dans le même lycée que sa cousine Annie Gauthier et d'habitude, elle passait les vacances avec Annie et ses frères ». Le même livre, 60 ans plus tard, Claude Dorcel est interne dans le même collège que sa cousine Annie Gauthier. Généralement, elles passent leurs vacances ensemble en compagnie des frères d'Annie.
Ce n'est pas au même temps.
Et non, ils ont enlevé l'imparfait et le passé simple au profit du présent de narration, c'est beaucoup plus moderne.
Bah, c'est plus moderne, alors, mais voilà. C'est moins complexe, alors, c'est dommage.
Voilà, on a hurlé, etc. partout quand on a lu ça. Mais bon, le Club des Cinq, contrairement au Docteur March, par exemple, ce sont des livres écrits à destination uniquement des enfants, sans visée littéraire particulière. C'est pas la même puissance quand même. Donc on peut se dire que, oui, effectivement, ça permet à des enfants de redécouvrir le Club des Cinq. Sans, voilà, ce serait dommage pour la Comtesse de Ségur, par exemple, parce que ça va vraiment avec l'ambiance. Mais pour le Club des Cinq, ça marche. En revanche, il y a aussi les Misérables, par exemple. Il y a des versions maintenant abrégées.
Oui, il y a des versions simplifiées des Misérables.
Alors oui, c'est pareil pour les Trois Mousquetaires, pour Monte Cristo, etc. C'est vrai que c'est des livres très, très, très volumineux qui peuvent faire un peu peur aux plus jeunes. Et donc, les Misérables, on s'autorise à l'abréger. Oui, Mathilde Amé, ça me fait peur.
Mais la mouffe.
C'est très, très, très dommage pour beaucoup de ces romans-là, mais pour Les Misérables, je trouve que quand même. Moi, c'est presque mon roman préféré au monde, mais quand même, il y a des passages sur Waterloo où il fait 60 pages sur comment s'est passée la guerre de Waterloo, qui n'ont rien à voir avec l'intrigue, ou comment marchent les égouts de Paris, etc. Ça, il l'enlève dans la version abrégée, et franchement, moi, je trouve que même adulte, on peut lire sans ça, on peut sauter ces pages-là.
Positionnement courageux de votre part, Nicolas, qui, je sens, ne vous fera pas gagner des points avec Mathilde Amé. C'est d'autant plus courageux de votre part. Mathilde Amé, vous avez dit, Nicolas Caro, que Greta Gerwig dit « Jo March m'a donné confiance et envie d'écrire ». J'avais envie de savoir, vous, qui vous a donné confiance et envie d'écrire ?
La psychanalyse.
C'est vrai ? C'est au terme d'une psychanalyse que vous avez eu le courage de
Ah oui. Ah oui, parce que c'est un travail d'introspection pour trouver... ce qui fait la sève de mon identité, peut-être ma raison de vivre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait passer une vie entière à côté de soi-même. Ça arrive à la plupart des gens d'ailleurs. Hein. Oui, parce que on manque, je pense que tout le monde manque de confiance. Ça, c'est une chose récurrente qui empêche, et on a tous beaucoup de freins, beaucoup de raisons de s'empêcher de faire des choses.
Et vous, c'est la psychanalyse qui a débloqué ça, qui vous a donné cette confiance
en gros,
vous,
oui,
que vous
mais c'est
pas.
Un cheminement. C'est un cheminement très long.
Mais c'est au terme de ce cheminement que vous avez commencé à écrire des pièces. Eh bien, voilà, une bonne pub pour la psychanalyse. Merci en tout cas, Nicolas Caro.
C'était pas le but.
Anne, une analyse pondérée et fair-play de la chronique de votre adversaire.
Pas bien.
Merci. À suivre, elle a surmonté les épreuves les plus dures. Le chemin vers la première place du championnat n'a pas été une sinécure. Elle a survécu aux pires humiliations, comme la fois où elle avait tenté une vanne devant Jérôme Commandeur.
Voter parce qu'un sapin qui n'est pas écolo, ça fout les boules.
Ah oui, c'est marrant parce que c'est très rare une vanne qui rend triste.
Anne Le Gall, notre expert environnement, arrive avec la réponse à cette question que vous vous posez peut-être. Pourquoi on ne trouve plus de tomates ni de courgettes bio d'origine France chez notre primeur ? Explication juste après Madonna. Musique sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour décrasser vos zygomatiques sans pour autant éteindre vos cervelles, apprendre en s'amusant et en compagnie d'un invité d'honneur qui se dévoile souvent ici comme jamais. C'est vrai ? Est-ce mon sens de l'interview ? La formulation jamais alambiquée et toujours concise de mes questions. Toujours est-il que dans l'équipe est sauvage, les vedettes se livrent comme rarement. Comme dernièrement Cédric Capiche, avec qui nous avions battu le record de la question la plus longue, débouchant sur la réponse la plus courte de l'histoire du média radio. Ils vivent dans Paris, sont un peu dépressifs, hein, on peut le dire. Lui peine à faire une rencontre amoureuse. Elle, elle multiplie, au contraire, les rencontres foireuses sur les applis. C'est une belle histoire, mais c'est surtout, comme toujours avec vous, l'analyse d'une époque.
Oui.
Aujourd'hui, c'est la comédienne, auteure et metteur en scène Mathilde Amé qui nous accompagne pour sa pièce Monsieur X avec Pierre Richard au Théâtre de l'Atelier à Paris. Nous l'avons vu. Vous en êtes sortie aussi subjuguée que moi, Eva, on peut le dire.
Oui, j'avais 5 ans pendant l'1h10 que dure la pièce. Et il y avait même des enfants dans la salle qui riaient très fort.
Essayez de ne pas avoir 5 ans pour nous résumer un petit peu, pour nous pitcher comme on dit la pièce.
On va essayer de faire très simple. Monsieur X est incarné par Pierre Richard. On va suivre ses tribulations pendant 24 heures. On le suit dans son appartement, où les objets semblent un peu animés, hein. C'est eux qui lui parlent. Lui adore peindre, il peint au rythme d'une musique endiablée. Et puis voilà, on le suit pendant 24 heures dans cet espace clos. Et moi je disais à Mathieu, quand j'ai vu votre pièce, j'avais l'impression que vous aviez convoqué à un dîner à la fois Jacques Tati, à la fois Chaplin, à la fois René Magritte, parce qu'il y a un côté surréaliste, et puis la peinture m'a fait penser à ça. Et puis Walt Disney aussi, parce que pour tous ces objets animés, ça m'a souvent fait penser au long métrage de Walt Disney. Et puis évidemment, Pierre Richard, c'était pour lui cette
moi
pièce.
Moi qui faisais tout pour échapper aux références, alors mince.
Oui, je suis désolée, c'est vrai, c'est toujours un
ramène toujours à des références. Ouais. Mais parce que je pense que comme c'est un genre un peu, peut-être à pas. Ouais. On a besoin de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Mais en fait, Pierre m'a écrit une lettre quand il a vu mon premier spectacle qui s'appelait Open Space, qui commençait par « J'ai pas dormi de la nuit », où il expliquait qu'il avait toujours rêvé de faire ça sans jamais avoir osé le faire et que c'était vraiment tout ce qu'il aimait. Puis ça a mûri, il est venu revoir Open Space, il est venu voir le banquet 2 fois. Je pense qu'on a les mêmes goûts, on parle la même langue. Et puis, je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Et est né Monsieur X, vraiment, qui est le fruit de mon admiration pour lui. Il fait partie de mes influences, clairement. Sa musique gestuelle, j'allais dire, est vraiment ancrée dans ma culture et dans mon inconscient, et dans le conscient aussi.
Mais est-ce que, justement, pendant les répétitions, vous parlez beaucoup, ou finalement, c'est le corps qui prend le dessus ?
On a pas mal discuté, parce que Pierre a besoin de s'ancrer dans la logique, vraiment, du personnage. Il m'a questionné énormément sur le pourquoi de ce geste et pourquoi de pas celui-là. Donc ça a été vraiment un vrai questionnement très profond, mais qui faisait vraiment sens, et on parle la même langue, on est absolument sur la même planète. C'est fou d'ailleurs, on a les mêmes réflexes, on rit des mêmes choses, on a beaucoup beaucoup ri. Hein.
Et le public rit beaucoup, il faut exactement le préciser. On est ravis de démarrer 2020 avec vous, Mathilde Amé.
Merci.
Europe 1.
À suivre, si l'expression « ravi de la crèche » n'était pas si négativement connotée, elle pourrait s'appliquer assez bien à notre expert environnement. Anne Le Gall, qui a en effet cette faculté inouïe de toujours tout voir du bon côté et de se réjouir quelles que soient les circonstances.
J'ai commencé le journalisme santé en 2003 au moment de la canicule.
Mais cette fois, la situation...
Mais c'est parce qu'on était en face de Patrick Pelloux, c'était la référence.
C'était d'autant plus drôle. Cette fois, la situation est grave, Anne. On ne trouve plus de courgettes ni de tomates bio d'origine France chez nos primeurs. Que se passe-t-il? Anne a enquêté pour nous, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Quel bonheur cet après-midi de gambader sur les chemins du savoir en compagnie d'une invitée aussi passionnante que Mathilde Amé, qui signe au Théâtre de l'Atelier l'écriture et la mise en scène d'une pièce pas comme les autres, Monsieur X, avec Pierre Richard, dont on parle depuis tout à l'heure. Mathilde Amé, tout le monde se souvient de vous en femme fatale au cinéma et à la télé. Depuis quelques années, on vous découvre donc auteur et metteur en scène, et c'est peut-être une vue de l'esprit, on vous sent beaucoup plus épanoui comme ça. On sent
c'est sûr.
Vous avez
compliqué.
Trouvé enfin ce que vous avez toujours voulu faire, finalement, plus
oui,
qu'actrice.
Oui, en fait, ma vie fait d'autant plus sens que j'ai réuni tout ce que j'ai pratiqué dans une forme. Donc je me rassemble, je ne sais pas comment dire, j'arrive à un point où tout m'est utile, tout me sert.
Je vous comprends sur un plan artistique, mais sur un plan psychologique, je me pose quand même la question, parce que beaucoup de femmes et d'hommes sont acteurs ou actrices aussi pour une question d'image, de notoriété, d'être reconnus pour ça. Et j'ai l'impression que vous vous en foutez. Est-ce que c'est le cas ? Alors, comment vous êtes devenue actrice?
Il n'y a pas eu un moment... On peut être connue sans être reconnue. C'est, je pense que c'était un peu mon cas. Je crois que j'étais connue presque malgré moi. Je n'ai pas cherché d'abord à être actrice. J'étais danseuse, moi, de
formation. C'est arrivé un peu par hasard.
On est venu me chercher. Alors, ça a été une expérience absolument passionnante et je continue d'être actrice quand l'occasion se présente et que c'est intéressant. Et ça me sert aujourd'hui. Je répare aussi l'actrice un peu frustrée que j'ai été par moments parce que je trouvais que les metteurs en scène manquaient un peu de curiosité à mon égard.
Quand on voit votre univers aujourd'hui, on se dit que oui.
Ouais, vous voyez, c'est-à-dire que ça s'arrêtait un peu à la façade. Bon, peut-être que moi aussi, j'ignorais ce que je contenais. Donc, j'étais pas au fait vraiment assez en confiance non plus pour me développer. J'étais très jeune quand j'ai commencé. Et puis aujourd'hui, en dirigeant les comédiens, je vais chercher en eux, je me répare un peu à travers eux finalement.
Il y a aussi la dimension comédie dans votre carrière qui n'a pas été très présente et qui est arrivée avec plus affinité, la pièce avec Pascal Légitimus au tournant des années 2010, si je me souviens bien. Avant, en fait, on ne vous proposait pas de rôle comique, entre guillemets.
Pas du tout, mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais écrit plus si affinité pour me servir, en fait.
Tout simplement.
Sur le registre de comédie, on proposait. Il faut dire que j'inspirais pas à la drôlerie, j'étais un peu coincée, j'étais pas très bien dans ma peau. Donc aujourd'hui, je me suis détendue, heureusement pour moi.
Alors on continue d'évoquer votre parcours, Mathilde Amet, mais l'heure est venue d'écouter notre deuxième journaliste en compétition, une journaliste qui découvre les inconvénients du statut de number one. En effet, propulsée beaucoup par son talent, un peu par le hasard, à la première place du championnat européen des meilleurs journalistes, Anne Le Gall, notre expert environnement, apprend à ses dépens qu'être première suscite beaucoup de jalousie chez ses collègues, des collègues qui, dans les couloirs de la rédac, n'hésite plus à dire tout haut ce qu'on savait tout bas.
C'est vrai que Anne, elle cache bien son jeu.
Moi, j'ai du mal à la suivre.
Elle picole beaucoup, Anne. Ouais. Je sais.
Non, c'est que je tiens bien.
Anne Le Gall, faites taire les envieux. Avec quel sujet allez-vous défendre votre couronne ce soir?
Nous allons aller faire un petit tour au rayon fruits et légumes pour résoudre ce mystère. Depuis le 21 décembre dernier, on ne trouve plus de tomates bio.
De tomates, c'est pas la saison. C'est pour
française.
Ça qu'il n'y a pas de tomates.
C'est pas saison, ça vous avez complètement raison. Mais la question c'est pourquoi y en avait-il l'année dernière, à la même époque, donc sur les étals. Et pourquoi aujourd'hui on trouve malgré tout des tomates bio, italiennes, hollandaises ou espagnoles. Eh bien, est-ce que vous avez une idée déjà de ce qui s'est passé dans notre réglementation?
La législation a dû changer et la France a dû décider qu'on n'avait plus le droit.
On n'est pas du tout au courant de cette histoire.
Alors,
Anne Le Gall est là pour ça.
En fait, ça a un lien avec les serres chauffées. Ce qui se passe, c'est que il y a eu l'entrée en vigueur le 21 décembre dernier d'une décision qui a été prise en juillet dernier. Décision prise par le Comité national de l'agriculture biologique pour interdire la culture de tomates et de fruits d'été dans des serres chauffées. Puisqu'évidemment, chauffer une serre quand on fait de l'agriculture bio, ça n'est pas très cohérent. Une tomate qui pousse en hiver dans une serre chauffée émet 7 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate de saison. Ça, ce sont les chiffres de l'ADEME, notre agence de l'environnement. Et ça émet même 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate importée d'Espagne.
Alors, on comprend,
et qui ne pousse pas sous serre.
On comprend la logique, mais ce qui est surprenant, c'est qu'on peut trouver malgré tout des tomates bio importées qui ont poussé dans des serres chauffées.
Alors ça, c'est l'incohérence du moment, puisqu'on est en train d'harmoniser les législations. Donc pour l'instant, c'est la France qui agit et on attend une harmonisation européenne
qui
permettra de ne plus avoir de tomates bio issues de serres chauffées. Alors c'est vrai que là, on en trouve encore pas mal. Alors je précise que c'est une interdiction de commercialisation. C'est-à-dire que une tomate, ça met 3 mois à pousser. Donc comme on pourra les réautoriser à la vente à partir du 1er mai, à partir de fin janvier, en fait, les producteurs bio vont pouvoir quand même utiliser leurs serres, les faire chauffer pour faire pousser des tomates qui seront donc commercialisées début mai. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de faire évoluer la législation sur le chauffage de ces serres. Depuis le 1er janvier, les nouvelles exploitations ne peuvent plus chauffer leurs serres qu'avec des énergies renouvelables, donc du biogaz, un effet de géothermie ou des panneaux solaires, tout simplement. Et ce sera le cas pour toutes les serres à partir de 2025 en France.
Mais y a pas
c'est
les mêmes...
pas mal, ça. Hein.
C'est pas
ça,
mal.
Ça va dans le bon sens.
Ça évolue.
Mais il n'y a pas les mêmes contraintes pour les tomates non bio, en revanche.
C'est ça qui est curieux. Alors après, quand le consommateur est informé, il agit en son âme et conscience.
Il a le pouvoir.
Il a le pouvoir d'acheter ou pas des tomates hors saison. D'ailleurs, les Français sont de moins en moins enclins à acheter ces tomates hors saison qui ont moins de goût, ça c'est clair. 80% des Français déclarent faire attention à la saisonnalité des fruits et légumes aujourd'hui.
Ça, c'est formidable,
c'est nouveau. C'est nouveau.
C'est votre cas, Mathilda, vous faites attention à ça?
Oui, j'essaye, absolument. Mais je pense que c'est notre seul pouvoir d'action et il est grand.
Il y avait un film de Mélanie Laurent qui traitait de ce sujet, de ce qu'on
de la marge de manœuvre
qu'ont les gens. Et je trouve que c'était vraiment très très bien vu. Oui, effectivement, la nouvelle génération, mes enfants sont très très penchés sur la question.
Et donc aujourd'hui, donc la saisonnalité, ça passe avant le critère d'aspect ou de prix. Enfin, de toute façon, des fruits de saison, ça coûte en général moins cher. Et alors, petite question culture générale.
Oula.
Pour tous.
Je n'ai pas lu les quatre filles du docteur Marsh, ça suffit.
Non, là, je parle depuis le début de la chronique de légumes en parlant de
tomates,
des
fruits.
Oui. La tomate, c'est un fruit, mais est-ce que vous savez quelle est la différence entre les fruits et les légumes?
Ça, j'ai jamais compris, alors vous allez m'expliquer.
Que ça soit hors de la terre, non?
Ah non, alors en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que dans un fruit, les graines sont à l'intérieur. Donc, une courgette est un fruit, une aubergine est un fruit.
Ah bon?
Ah oui?
Et oui, puisque les graines sont à l'intérieur, un concombre est un fruit. Alors ça, c'est au sens botanique. Et la fraise n'est pas tout à fait un fruit.
Mais la fraise
puisque
quoi,
la fraise, si vous visualisez, vous avez une petite graine à l'extérieur.
Donc la fraise est un légume. C'est pas tout à fait un fruit. En fait, en ce 3 janvier.
La fraise n'est que le réceptacle de la fleur. Et ça n'est pas vraiment un fruit. Les petites graines qu'on appelle les akènes sont à l'extérieur. Voilà, ça c'est pour la machine à café.
Ah oui, effectivement, ça vous pourrez briller la machine à café, mais vérifiez quand même. La canne de galon, on ne sait jamais. On remercie Anne. Nicolas, comment jugez-vous la prestation de votre rival ce soir? Est-ce qu'elle a une chance de vous battre?
Je crois que c'est vite vu.
Merci.
Europe 1.
Mathilde Amé, notre invitée jusqu'à 18h. À suivre, Mathilda, vous avez choisi de confier la musique de votre pièce Monsieur X au trompettiste Ibrahim Malouf, alors qu'Eva Rock, qui taquine aussi la trompette avec un certain brio, était beaucoup moins chère. Pour un résultat, à mon sens, tout aussi qualitatif. Hein. Eva n'a jamais digéré cet affront. Elle va entreprendre de se venger en vous infligeant une défaite dans l'épreuve du quiz. Je dis bien entreprendre, car je vous rassure tout de suite, Mathilda, en 85 émissions, Eva n'a remporté le quiz que 3 fois. Un miracle aura-t-il lieu? C'est toute la communauté niçoise qui croise les doigts.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour oublier que les vacances sont déjà terminées. Et pour amortir le choc, quoi de mieux que de consulter son calendrier et de réaliser qu'aujourd'hui, Eva...
Aujourd'hui, c'est vendredi,
c'est vrai.
Eh oui.
Mais oui.
2 jours de boulot et hop, déjà le week-end. C'est pas comme ça qu'on va financer les retraites, mais ça fait du bien. Avec nous cet après-midi, une comédienne célèbre devenue auteur et metteur en scène à succès, Mathilde Amé, passe l'après-midi sur Europe 1, alors que deux de ses pièces, Le Banquet et Monsieur X avec Pierre Richard, feront votre bonheur au mois de janvier à Paris. Et comme Dame Nature répartit mal les talents, vous avez aussi celui, Mathilde Amé, de la musique. Vous l'avez toujours dit, la musique est sans doute la chose la plus importante dans votre vie. Ah oui. Vous avez d'ailleurs sorti un album et un CD.
Il y a longtemps.
Certes. Pourquoi ne pas avoir persévéré dans cette voie, puisque la musique est au centre de votre vie, vous le dites.
Je cherchais mon âme sœur, en fait. Je cherche toujours, d'ailleurs. Et j'avais co-composé la musique d'Open Space, mon premier spectacle. Donc, je continue à être complètement immergée, mais je pense qu'il ne faut pas faire pour faire. Hein. Il faut trouver vraiment... Moi, j'ai besoin d'un binôme qui soit très éclectique comme moi.
Bah, vous avez pourtant croisé des sacrées légendes de la musique, puisque vous avez rencontré Prince.
Oui.
Pour le commandant mortel, comment on rencontre Prince? Parce que moi, personnellement, je l'aurais bien aimé le croiser, je n'ai jamais eu l'occasion.
Pas compris comment, hein, parce que ça m'a tellement... j'en suis encore aujourd'hui, 30 ans après, complètement impressionnée. Il avait vu un film qui se jouait à l'époque, j'étais un peu sur les colonnes Maurice à ce moment-là.
C'est la passerelle,
et il avait vu le film. Moi, je suis allée le voir en concert, et j'étais un peu dans le carré VIP à l'époque, je commençais à me faire un petit nom et tout. Mmh. Et une copine m'a dit, il te regarde, t'es sur scène, je me dis, n'importe quoi, tais-toi d'abord, parce que j'étais en état de choc de ce que je découvrais, c'était la première fois que je voyais sur scène, bon, j'étais complètement en transe. Et puis après ça, il y avait une fête organisée, à Énergie, la radio à l'époque m'a dit, venez à la soirée, bon... Je passe, je suis toute seule, je suis complètement perdue. Et là, il y a une dame qui m'attrape par le bras et qui me dit « Vous ne le connaissez pas? Venez, je vous le présente. » Je dis « Non, je ne peux pas, je vais crever. » Et elle tape sur l'épaule des gardes du corps qui étaient autour de lui. Je me tape une honte horrible. Elle essaye d'expliquer « This is Mathilde Amé, very famous. » horrible. Donc, je m'éclipse, mais vraiment sur la pointe des pieds, en tournant le dos discrètement. Je me dis « Bon, le temps qu'elle parle, qu'elle négocie, c'était tellement honteux. » Je m'éloigne et là, il y a une petite main qui me tape sur l'épaule, je me retourne et c'est Prince. Ah. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et après, il y a eu une collaboration où il vous a fait enregistrer un morceau d'un titre destiné à un album d'Eric Leeds, saxophoniste et flûtiste. Ah. On écoute un extrait.
Voilà. Des fois, j'ai compris, et pas plus. C'est tellement bien.
j'ai peur.
On reconnaît le tellement son la patte Prince, ce rythme syncopé. Comment vous êtes retrouvé à enregistrer ça avec lui?
Parce que je suis allée le voir travailler, on s'est rencontrés, connus, ouais. Et donc je suis allée même à Minneapolis et tout ça, j'ai assisté, j'ai eu cette immense chance, c'est vraiment un des souvenirs les plus marquants de ma vie, d'avoir eu cet honneur de pouvoir voir, vraiment de le voir créer en partant de rien et enregistré en un temps record. Il était absolument constamment inspiré.
On dit qu'il a dans ses coffres des tas de disques et des tas de chansons, ah oui, de maquettes qui ne sortiront peut-être jamais. Ce n'est pas une rumeur. Vous confirmez que c'était quelqu'un de très prolifique et il doit y avoir des tas de titres de Prince qu'on ne connaît pas.
Il était en mission. Il était porté par l'inspiration. C'était même parfois ce qui faisait qu'il oubliait sa propre condition humaine, c'est-à-dire celle d'un homme qui pouvait être fatigué. Mais c'était secondaire. Tout était secondaire. Il était vraiment absolument porté par la nécessité vitale de créer tout le temps.
Vous étiez resté en contact avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à sa disparition ?
Oui, pas tout le temps. Il y a eu des années qui ont passé. Ouais. Et puis on s'est revus quand il est venu à Paris, son dernier concert, qui était magistral. C'est vraiment l'artiste qui m'aura le plus influencé dans ma vie et qui m'aura appris ce que doit être pour moi, à mon sens, un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche à innover, quelqu'un qui cherche sans cesse à explorer et s'aventurer dans des chemins qui n'ont pas été foulés avant lui.
Les amis, ne nous laissons pas gagner par l'émotion, car c'est un moment très important et éminemment solennel aussi de l'émission qui se profile. Le quiz qui oppose l'invité à Eva Rock. Je rappelle les statistiques.
Ah, cette
cruelle pour Eva. 82 défaites pour seulement 3 victoires. Eva, essayez de vous souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé en vous les rares fois où vous avez gagné?
D'un coup, ça s'est allumé dans mon cerveau.
D'un coup, ça s'est allumé dans son cerveau. Le problème, c'est que visiblement, EDF lui a coupé le courant. Allez, on y croit, Eva. Moi, j'y crois pour vous aujourd'hui.
C'est vrai ?
Mathilda, pour le quiz du jour, je voulais rendre hommage à la pièce que vous mettez en scène et qu'on pourra applaudir au théâtre à Paris à partir du 14 janvier, Le Banquet. Le thème sera donc le mariage. C'est un vrai faux. Une bonne réponse vaut un point. Mathilda May, aux États-Unis, en Caroline du Nord, un mari trompé a porté plainte contre l'amant de sa femme. Il a réussi à le faire condamner à 750 000 dollars parce qu'il était responsable de la faillite de son mariage. Vrai ou faux ?
Oh, je pense que c'est possible aux États-Unis. Hein, tout est possible.
C'est la bonne réponse. Une loi datant du 19e siècle, encore en vigueur dans 5 États des États-Unis, le permet. Si une personne est responsable de la fin de votre mariage à cause d'actes injustes, vous pouvez demander réparation.
Encore, Eva Rock. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un acte injuste, hein.
Oui, bon, Eva, je vous demande de répondre à la question qui suit.
Allez-y.
Le samedi 19 mai 2018, Meghan et Harry se disaient oui à Windsor. Un couple a été arrêté et a fait 3 jours de prison car il commercialisait sans aucune autorisation des préservatifs à l'effigie du prince et de la princesse.
Oh, c'est
vrai,
drôle.
Ou faux?
Ah, j'ai envie de dire oui.
Vous avez envie de dire oui?
Ah, oui.
C'est votre réponse?
Oui, c'est ma réponse.
Oui, bah, c'est faux.
Ah bon?
Mais
c'est sympa
voir,
comme info.
C'est sympa quand même, vous allez voir. C'est faux. Tout a été commercialisé sans problème. Délicieusement lubrifié et fait d'un somptueux latex, c'était marqué sur la boîte. Les préservatifs étaient baptisés « joyaux de la couronne ». En anglais, il était également marqué « Your prince will come ». Ce qui peut également se traduire par « votre prince va venir, mais pas que ».
Mais bref. Alors c'était quoi? En fait, ils n'ont pas été arrêtés, c'est ça.
On avait
d'accord,
juste le droit de les commercialiser.
D'accord.
Eva Rock, Mathilda May, l'année dernière, dans la ville des Zoubots, une petite commune du Calvados, une robe de mariée a fait la une de la presse locale. Pour quelle raison? 1. Parce qu'elle était faite en toile de parachute. 2. Parce que c'était la première robe de mariée pour homme portée dans un mariage officiel en France. Ou parce que c'était une robe de mariée combinaison de plongée pour un mariage qui a été célébré sous la mer.
J'ai envie de dire la deuxième, la robe pour homme, parce que ça me plaît
aussi,
bien l'idée.
Ouais, moi aussi, j'en
vois
ça.
Vous suivez Mathilde Lamé?
Oui, je suis Mathilde Lamé sur cette réponse.
Vous suivez Mathilde Lamé? Vous avez tort!
Puisque la bonne réponse
était effectivement une robe de mariée en toile de parachute qui a été offerte au musée du débarquement du Tabit. En toile de parachute? Oui. Vous comprenez le lien? Vous vous souvenez de cet événement qu'on appelle le débarquement?
Vaguement. Je vois à peu près.
Il y avait des nazis en France qui sont arrivés, les Américains. Une famille a offert la robe de mariée de leur mère qui avait été cousue à partir d'un parachute américain.
Ah oui,
belle histoire. Le mariage avait été célébrée le 6 septembre 1944. Elle était dans un placard. Elle pourra dorénavant être admirée en musée. Mathilda May, dans le vrai conte des frères Grimm, quand Cendrillon se... Pas dans Disney, dans le conte des frères Grimm. Quand Cendrillon se marie, ses méchantes sœurs se marient aussi, mais avec un âne et un bœuf. Vrai ou faux?
Je m'en souviens pas. Je crois que oui.
Croyez que oui?
Ah oui, ce serait marrant.
C'est faux, c'est encore plus marrant, puisque les frères Grimm, c'est vraiment pas Disney. Le jour du mariage de Cendrillon, ses deux sœurs se font crever les yeux par des pigeons. Il faut relire les frères Grimm, c'est très feel good, comme on dit aujourd'hui. Eva Rock, si vous êtes invitée à un mariage suédois et que vous portez du rouge, c'est que vous avez couché avec le marié par le passé. Vrai ou faux?
Ah non, c'est faux. Enfin, je pense que c'est faux, parce que vous imaginez les histoires pendant le mariage, ouais. Quoi.
Vous savez quoi, Eva? Vous êtes vraiment la plus nulle de toute l'histoire, parce que même sur un coup de bol, vous n'y arrivez pas. Pourtant, c'est vrai, Eva, le rouge est synonyme de tromperie en Suède. Normalement, aucun invité n'emporte, que l'on soit homme ou femme, c'est interdit.
Ah bah oui, mais c'est bah donc j'ai raison en
non,
fait.
Non, vous n'avez pas raison,
votre
vous avez faux.
Elle a
facilement triomphé des Varocs qui en même temps n'y connaît pas grand-chose en mariage. Mathilde Amet passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, la direction d'Europe 1 m'a fixé un cap clair pour 2020, reconquérir les jeunes auditeurs égarés dans les griffes de Virgin Radio et Énergie. Le sujet qui suit est donc taillé sur mesure pour eux. Jeunes, reste sur Europe 1. Nous allons parler de la révolution du skateboard à Bordeaux, une ville qui promeut à fond la planche à roulettes, ce moyen de locomotion résolument chébrant et funky sur lequel tu aimes à te déplacer en baggy. Bah là, s'ils reviennent pas, je comprends plus rien. On retrouve Stéphane Place à Bordeaux juste après Gauvin Serre. Il n'y a plus de saison sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous divertir, vous amuser tout en vous informant, voilà la triple mission de l'équipe est sauvage. Cette chevauchée rieuse qui nous emmène aussi en région. Cet après-midi, depuis Bordeaux, on va parler aux jeunes. Sachant que ce qui se rapproche le plus d'un jeune dans l'équipe, c'est Nicolas Carreau.
Check de l'épaule, accolade sur l'omoplate. Bien ou quoi? Check de l'épaule, accolade sur l'omoplate, je me rassois.
Autant dire que c'est pas gagné. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est un sacré virage. La ville de Bordeaux encourage désormais la pratique du skate. Et oh, disant cela, on pense aux riverains excédés par les crissements de roulettes et le bruit de la planche qui retombe lourdement sur les bancs publics sous la fenêtre. On pense à la pluie d'amandes qui, pendant des années, a découragé les skateboarders. Que s'est-il passé pour que la municipalité encourage ainsi tout à coup la pratique du skate?
Bah en fait, il y a un vrai phénomène. La municipalité de Bordeaux va investir des centaines de milliers d'euros ces prochaines années pour rénover et créer de nouveaux espaces pour les skateurs. À Bordeaux, où l'on compte plus de 30 000 pratiquants réguliers, la mairie estime que c'est une chance. Alors, pour une meilleure cohabitation avec les riverains et les passants, elle a mis en place un dispositif appelé Skate Zen. Ça, c'est quand même un volet important. Des panneaux indiquent sur des places emblématiques de la ville les jours et les heures où on peut enchaîner les figures avec sa planche à roulettes. Mais ce n'est pas tout. Ariel Piazza, adjointe au maire en charge des sports.
C'est la ville qui est la star du skate. Hein. Et donc, s'ils viennent dans nos rues et sur nos places, c'est parce que le patrimoine est attractif. D'abord, il y a eu le dispositif Skate Zen. Hein, donc, comment on régule, comment on organise la ville. Et après, on s'est projeté sur les années à venir. On a travaillé avec nos jeunes skateurs sur la qualité des bancs pour qu'il n'y ait pas de dégradation, donc un granit particulier.
Parce qu'ils vont monter sur les bancs avec le skate.
Et oui, sur l'arête du banc, c'est ce qui permet des figures intéressantes pour eux. Et puis, on a travaillé aussi sur l'existant. Par exemple, la jardinière, eh ben, elle va devenir un module de skate. C'est-à-dire qu'on part de l'existant pour transformer sur quelque chose qui va pouvoir leur faire plaisir. Mais vous savez que ça revitalise aussi des lieux qui étaient un peu en déshérence, où c'était un peu dans l'ombre, il n'y avait pas vraiment de pratique de quoi que ce soit et il n'y avait pas de jeunes. Ils aiment bien skater sur des places attirantes, donc ils travaillent au nettoyage de la place.
Eva a déjà mis sa casquette en arrière, Stéphane.
Ouais,
elle
exactement.
Est prête à venir skater.
je veux voir, hein, je veux filmer. D'autant justement que c'est un des aspects importants. Pourtant, c'est ce que me disait l'élu, les pratiquants du skateboard, eh bien, ils filment leurs exploits, ils les diffusent sur les réseaux sociaux et ça fait de la pub à la ville parce que du coup, on voit la magnifique architecture bordelaise 18e, on attire des touristes. Donc, c'est aussi un déplacement doux et écologique, la planche à roulettes. C'est une référence cinématographique aussi pour Eva ou pour moi. Enfin, peut-être vous êtes un peu jeune, Mathieu.
Ah, mais oui.
Vous voyez ou vous voyez pas, Eva?
Bah, Retour vers le futur.
Voilà,
oui. Ça,
Marty McFly.
Enfin, quand même, c'est ma génération aussi.
Ah bon?
Oui, mais c'est bien, vous marquez des points, Stéphane Place. Vous marquez beaucoup de points. Si vous étiez en compétition, vous auriez eu mon petit point aujourd'hui.
Oui, mais à chaque fois, je tire sur la même corde et ça marche.
Je suis tellement prévisible. Vous perdez votre point. Ça va très vite dans cette émission. Merci beaucoup, Stéphane Place, notre correspondant dans le Sud-Ouest. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Europe 1.
Mes chers agneaux, quelle joie de vous retrouver pour démarrer 2020, qui plus est en compagnie d'une comédienne et metteur en scène aussi talentueuse que Mathilde Amet, même si je sais que les plus attentifs d'entre vous auront noté qu'on était vendredi et qu'exceptionnellement, nous n'étions pas en public. Je m'en excuse auprès de vous, chers auditeurs, et auprès de Mathilda. C'est vrai que sans public, l'ambiance est un peu moins bouillante dans le studio. Le vendredi avant les vacances, par exemple, avec Clovis Cornillac, on était en public. Clovis Cornillac est notre invité sur Europe 1.
Eh ben oui.
Et c'est vrai que question ambiance, c'était quand même autre chose. Mais on va faire avec. A tout de suite pour une deuxième heure.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'heure de la mi-temps a sonné pour les valeureux concurrents de l'équipe sauvage, la Ligue des champions, on peut le dire, des journalistes d'Europe. Notre invité d'honneur, Mathilde Lamay, reste avec nous. Deux nouveaux journalistes vont nous rejoindre pour tenter d'emporter la mise et de rafler la précieuse couronne de chroniqueur du jour. Une compétition qui, contrairement aux rumeurs, ne rend pas du tout fous les journalistes de la station qui ne sont absolument pas prêts à tout pour l'emporter et certainement pas à dénoncer un collègue pour le faire chuter, comme on a pu le vérifier hier.
Et je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote avec une amie que nous connaissons tous ensemble ici. Je vous citerai peut-être son nom tout à l'heure.
Et c'est quelqu'un qui boit beaucoup ?
Oui.
Catherine Ney.
Je vous raconte l'histoire et vous allez deviner qui c'était.
Anne Le Gall.
Non, c'est Mélanie Gomez.
Mélanie Gomez ! Ça, ça ne m'étonne pas de Mélanie. Hein.
Vous êtes horrible.
C'est donc une deuxième heure de bonne humeur qui se profile. Mais je ne trouve plus mes mots. Je bug et pourquoi je bug?
Mais parce
car
que
c'est l'heure de jouer.
C'est l'heure de jouer. Parce que jusqu'au 5 janvier, même si Noël est terminé.
Et même si légalement je n'ai pas le droit de jouer. En fait.
Voilà, on vous offre encore des cadeaux. Et aujourd'hui, vous tentez de gagner le nouvel iPhone 11 et en plus l'iPad Pro. C'est dans le même cadeau.
Dans le même cadeau.
Ouais,
mais pourquoi on ne dispatche pas sur les jours? Parce qu'on n'a pas non plus un blé fou à Europe 1. On devrait faire un jour l'iPad, un jour l'iPhone.
Non, on l'a fait hier, on n'avait fait que l'iPhone. Là, c'est iPhone et iPad.
C'est la totale.
Le tout pour une valeur de plus de 2000 euros. Alors pour jouer, vous vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort en appelant le 3921, 50 centimes la minute, où vous envoyez le mot de passe MAGIE, M-A-G-I-E, par SMS au 739-21, 75 centimes, plus le coût du SMS, 3 messages pour jouer. Bonne chance.
Eh oui, bonne chance.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, deux heures de détente informative pour vous, d'un affrontement plus sanglant qu'un combat de coq baliné shooté à la taurine pour eux. Oui, pour les journalistes d'Europe 1, désormais le studio Coluche est une arène où tous les coups sont permis pour rafler la couronne de chroniqueur du jour, ce chef-d'œuvre de l'artisanat bangladais qui récompensera en fin d'émission le journaliste dont le sujet vous aura le plus intéressé. Le tout sous l'œil d'une invitée d'honneur dont vous allez pouvoir applaudir deux pièces en janvier à Paris. Mathilde Lamay est avec nous, il y a Le Banquet au Théâtre de Paris et puis Monsieur X avec Pierre Richard au Théâtre de l'Atelier. On continue évidemment d'en parler, Mathilda. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, subjugué par la qualité de sa chronique, Gérard Darmon avait dit de lui:
c'est un oiseau, c'est un génie, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Lui et les Beatles aussi, bien sûr.
Alors, on n'a pas pu avoir les Beatles, mais on a Fred Goetti. Bonjour Fred.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Mathilda, bonjour Mathieu.
Vous êtes Fred, le directeur de Jazz Magazine, mais aujourd'hui vous nous parlez des Beatles, car nous sommes le 3 janvier 2020, et ce n'est pas une date anodine pour les fans des 4 garçons dans le vent.
Le producteur George Martin veille au grain derrière la console d'enregistrement. Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont derrière la vitre et commencent à jouer ensemble. Mais où est passé John Lennon? On en parle dans quelques minutes.
Oh, ça c'est du teasing.
Alors
là, il y en a qui devraient prendre des leçons. À ses côtés, Fred, elle se fout pas mal des Beatles, de l'histoire du rock et de l'enregistrement de Let It Be. Une seule chose l'obsède, une seule chose la meut, la victoire. Aussi, quand on connaît l'ego d'Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, on peut affirmer que par ses déclarations préliminaires d'hier, elle se classe au sommet du podium des bonnes résolutions du nouvel an, ayant le moins de chances de se concrétiser, devant celle d'Arnaud Lagardère qui s'est promis qu'Europe 1 passerait devant RTL, et celle de Fabien Otoniente qui s'est promis de faire enfin un bon film. Autant dire qu'il y avait du niveau, je l'embrasse, en plus je l'adore, il est sympa. Autant dire qu'il y avait du niveau, et pourtant, elle est arrivée et elle a mis tout le monde d'accord avec ce pipeau venu d'ailleurs.
Alors maintenant, j'ai décidé d'être tout à fait zen et je laisserai les autres gagner avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse.
Mathilde Lamay, je vous présente une actrice hors norme qui peut donc tout jouer. Bonjour Ève Roger.
Bonjour Mathieu, bonjour Mathilde, bonjour à tous.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui, Ève? Je crois que le sujet n'est pas du tout rigueur.
Non, pas du tout drôle. Je fais une session de rattrapage parce que vous avez eu le scandale de l'affaire Matzneff qui a éclaté pendant les vacances de Noël. Et je vais vous raconter comment cet écrivain pédophile a pu en toute impunité séduire et détruire de nombreuses jeunes filles dans les années 80.
Effectivement, ça sera un peu moins rieur, mais bien plus utile que mon lancement. Qui d'Ève Roger ou de Fred Goetti l'emportera dans cette manche? La réponse tombera peu avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous Mathilde Lamay? On est allé vous poser la question. Voici non pas un banal micro-trottoir, toujours bidonné pour flatter l'invité. Voici notre micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé en vrac, ce que vous avez dit.
Mathilde Lamay.
Je veux plutôt des femmes assez sexy, voilà quoi.
Je pense une femme de caractère, oui, avec un certain charisme.
C'est pas elle qui, dont on s'est inspiré pour le dessin animé Pocahontas. Je sais pas si c'est une légende ou si c'est réel, mais les traits du visage de Pocahontas, il y a beaucoup de Mathilde Lamay dedans, ou alors à l'inverse.
Une femme dure, peut-être. Je parle des rôles.
On m'a déjà dit que je ressemblais à Mathilde Lamay, oui.
Bon, elle est sexy quand même, hein. Vous ne trouvez pas?
C'est plutôt flatteur, oui, bien sûr. C'est une très belle femme et c'est vrai qu'elle a l'air plutôt plutôt subtil, voilà.
Mathilda, vraiment, quand vous voulez.
Alors, oui, effectivement,
ils en parlent pas une, nos auditeurs.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce micro-trottrage. Le rapport avec Pocahontas, vous
ça
me faisiez
signe.
C'est
bah, en fait, j'ai fait la voix de Pocahontas française. Et donc, j'ai su après coup que Disney cherche toujours des ressemblances physiques à leurs personnages pour trouver les voix.
Incroyable.
Ce qui est très flatteur, hein, parce que Pocahontas, c'était quand même
effectivement,
pas dégueu. Hein.
Effectivement. Alors, Mathilde Amé, nous sommes venus voir la pièce avec Eva Monsieur X le 30 décembre, en pleine période de vacances et de grève. Vous avez accueilli les spectateurs en leur disant « Venir au théâtre en ce moment est un acte militant. Mmh. » Est-ce que la situation sociale actuelle avec ces grèves met en péril les théâtres ? Est-ce que vous le ressentez, vous ? Est-ce
Bien
que
sûr.
C'est...
Bah, c'est oui, le théâtre, c'est une économie fragile. Alors, je ne veux pas avoir l'air d'être une artiste qui se plaint parce que les artistes, oui, on est des privilégiés dans la mesure où on a la chance de faire un métier qu'on aime. Toujours est-il que l'économie du théâtre est réellement fragile et elle est d'autant plus fragilisée que le mois de décembre, c'est le mois où les théâtres rattrapent leurs pertes de toute l'année. Donc, effectivement, tous les théâtres sont quasiment vides. C'est très, très triste parce que c'est aussi le pouls d'une société. Hein. L'art, la culture, c'est ce qui permet de voir dans quel état de la santé d'une société. Donc je remercie, oui, personnellement les spectateurs chaque soir, puisque je suis là chaque soir pour l'instant, de se donner la peine de venir, parce que oui, c'est une démarche quasi militante pour le théâtre. On a besoin, d'autant plus que les temps sont difficiles, et les spectateurs me disent en sortant qu'ils ont oublié le déplacement, tout ce que ça leur a coûté de venir en voyant le spectacle, ce qui pour moi est une immense récompense et ça me touche beaucoup.
Quel genre de metteur en scène vous êtes, Mathilde Lamé ? Vous êtes du genre à bosser énormément en amont et ensuite vous détacher de la pièce ? Ou est-ce que vous êtes là tous les soirs sur un strapontin pour vérifier que tout se passe au cordeau comme vous l'avez prévu ?
Ah bah, je suis là tous les soirs pour l'instant, au début, parce que c'est tellement technique et il y a une telle synchronicité entre toutes les personnes de l'équipe. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, au millimètre. Donc il y a des réglages constants pour l'instant. Je ne suis pas très détachée, mais je suis tellement investie dans ce que je fais, corps et âme, que je ne peux pas me détacher. C'est moi.
Vous me parliez en antenne du plaisir qu'il y a à mettre en scène, mais aussi du stress qui est très différent du stress qu'on a quand on est simplement, entre guillemets, acteur.
Ah ouais.
Là, c'est un stress qui ne vous quitte pas du
c'est un
début
trac,
à la
plus
fin.
Trac. Ouais, c'est un vrai trac. Alors là, oui, moi, j'ai connu tous les tracs hein, dès l'enfance avec la danse classique ou les concours. Ensuite, comme comédienne, les premiers essais, les premières interviews, recevoir un prix devant un parterre de gens du cinéma. Enfin, j'ai eu tous les tracs, mais celui-là... Je pense qu'un jour, je vais crever. Je vais crever de trac.
C'était...
C'est super violent.
Le théâtre est devenu son terrain de jeu. Mathilde Amé est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, il aura la lourde tâche de démarrer sous le regard noir d'une rivale prête à toutes les bassesses pour l'emporter. Ève Roger, comment présenteriez-vous Fred Goati ?
C'est vraiment le ringard, c'est le rabat-joie.
Non, un peu de fair-play, Ève. C'est le directeur de Jazz Magazine, également féru de rock. Et ce soir, il revient sur un enregistrement mythique puisqu'il y a 50 ans, jour pour jour, les Beatles se retrouvaient en studio pour la dernière fois. Un sujet qui tombe à pic, sachant que Paul McCartney est le chanteur préféré d'Eva.
Mais non, c'est Florent Pagny.
Mais non, laissez-vous guider parce que je dis sinon on va pas s'en sortir.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il y a 50 ans, les Beatles chantaient... Un titre positif et bienveillant qui aurait pu devenir l'hymne de notre émission. Une émission où tous les journalistes d'Europe 1, bons et mauvais, auraient proposé de gentilles petites chroniques auxquelles on aurait tous mis 10, comme dans l'école des fans, sous l'œil d'un invité qui aurait eu la politesse de trouver chaque sujet formidable, alors que, comme le dit Mathilde Amé...
Souvent c'est raté, bon...
Oui, et oui, voilà pourquoi l'hymne de notre émission n'est pas « All you need is love », mais... Néanmoins, nous allons tout de même parler des Beatles aujourd'hui avec vous, Fred Goati, car vous avez beau diriger Jazz Magazine, vous êtes aussi ouvert au rock. Or, ce 3 janvier n'est pas une date comme les autres.
Boum. Eh oui, ça finit comme ça.
Ça finit comme ça ?
Sur Abbey Road 2, oui. Alors, cette petite comptine coquine chantée par Paul McCartney, c'est Her Majesty. C'est la dernière chanson du dernier 33 tours enregistré par les Beatles, Abbey Road. Attention, le dernier disque enregistré, mais pas le dernier disque paru, puisque Let It Be, sur lequel les Beatles avaient commencé de travailler avant de sortir Abbey Road, sera, comme chacun sait, l'ultime, hélas, l'ultime album des Fab Four, les 4 fabuleux. Alors, il faudrait des heures pour parler, pour détailler la genèse
de Let It Be. Ça tombe bien, vous avez 2 minutes.
D'accord. Alors, je vais m'attarder sur la date anniversaire du jour, le 3 janvier 1970. C'était un samedi, pas un vendredi, et donc la dernière fois que les Beatles se sont retrouvés en studio. Enfin, les Beatles moins un, puisqu'en réalité, John Lennon était en vacances au Danemark avec Yoko Ono. Alors, la source de jeûne est assez symbolique.
Ceux qui disent que c'est Yoko Ono qui a foutu le bordel vont encore avoir du grain à moudre.
Moi, cette idée.
Elle venait au Danemark, c'était maintenant. Elle dit Yoko, là, c'est pas le moment, on va enregistrer. Elle dit si, c'est maintenant ou jamais, voilà.
Alors, l'absence de John est assez symbolique parce qu'elle augure, hélas, de la fin des Beatles. C'est donc sans lui que Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont enregistré I, Me, Mine. I Me Mine, c'est une chanson que George Harrison avait composée un an plus tôt, en combien de temps à votre avis?
5 minutes. Non?
Elle est très forte. En 5 minutes, ah bah voilà. Chrono.
Quel
bon
génie
chrome.
De la musique, c'était
là, 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 là. Alors le lendemain, le dimanche 4 janvier 1970, on travaillait le dimanche au studio Abbey Road. À l'époque, Paul, George et Ringo, nos amis, on les connaît maintenant, se sont à nouveau retrouvés dans les studios d'Abbey Road. Donc, pas pour enregistrer cette fois, non, pour mixer quelques morceaux terminés, façonnés, quelques morceaux qui étaient déjà donc, enregistrés, dont celui qui donnera son titre à l'ultime album, Let It Be, ainsi soit-il, ce joyau de sœur, faut pas l'oublier, hein, sœur Paul McCartney. Oui, nous sommes tous des modestes ambassadeurs de Paul. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Alors, la Mother Mary, qu'il implore au début de la chanson, c'était pas la Vierge Marie. C'était sa maman, tout simplement,
ah bon
qui s'appelait
ah bon
Mary. Eh oui, Let It Be, c'est une chanson merveilleuse, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les Beatles, en plus, qui l'ont sortie en premier.
Comment ça ?
Parce que quand Paul McCartney était en train d'écrire et de composer cette chanson, il avait quelqu'un en tête. Et ce quelqu'un, c'était la reine de la soul, c'était Aretha Franklin. Il lui a donc envoyé les paroles et la musique bien avant que l'album des Beatles ne sorte.
Oui.
Et vous vous doutez bien qu'Aretha Franklin, elle a vu ça. Elle l'a enregistré tout de suite. Et elle a sorti sa propre version le 15 janvier 1970. 15 jours après notre date anniversaire. Et je peux vous dire que dans sa bouche, bah, la Mother Mary bah, retrouvait ses accents divins.
Je sens que même F. Roger est ému. She's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Même le cœur de Pierre Dev est en train de fondre.
Elle est incroyable cette version.
Elle est magnifique cette version, Fred. Je sens que je vais vous donner mes points. Mathilde Amé, j'ai l'impression que vous êtes touchée par cette
tellement,
musique.
Tellement, mais quelle âme, quelle dimension divine elle donne à cette chanson qui était déjà divine, mais là, il y a une espèce de surélévation, de supplément d'âme qui était sur cette voix et les cœurs, mon Dieu, c'est beau.
C'est l'alliance de l'émotion et de la technique, mais la technique qui n'est pas...
Elle est dépassée.
Elle est pas dépassée, on est
au-delà. Chercher une conclusion pour ma chronique, Mathilde Amé l'a fait.
Oui, c'est vrai, c'est mieux que n'importe quelle conclusion que vous auriez pu écrire.
Ah bah,
vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, non. Vous risquez d'avoir mes points. Vraiment, c'est tout bref pour vous aujourd'hui.
Je voulais juste ajouter que 6 jours après, c'est une époque incroyable, il y avait un certain Jimmy Page qui allait fêter son 26e anniversaire. Où ça ? Au Royal Albert Hall, carrément, avec son groupe Led Zeppelin, qui venait de déloger les Beatles en tête des hit-parades. Donc, la fin des Beatles, c'est la fin d'un monde, mais c'est aussi le début d'une autre histoire.
Et quand je pense qu'il y a des similitudes comme ça aujourd'hui, on sait que Maître Gims a enregistré son dernier album à quelques jours du nouvel album de Jules. Je me dis que vraiment, on a l'époque qu'on mérite. Merci Fred Goetti.
Europe 1.
À suivre, avec la multiplication des chaînes de télé et des plateformes de VOD, il est désormais difficile, le soir venu, d'éviter la dispute avec votre conjointe. Vous voulez voir le nouveau Scorsese sur Netflix, elle veut voir Marriage Story également sur Netflix. Par radinerie, vous n'avez pas souscrit l'option multi-écran, le résultat est écrit d'avance.
Tout va bien.
Ne laissez pas les écrans détruire votre vie conjugale. Laissez Eva Rock choisir à votre place. Ses conseils télé, juste après Nash, La couleur de l'amour sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande compétition des journalistes d'Europe 1 continue en présence aujourd'hui de Mathilde Amé qui signe Monsieur X au théâtre de l'Atelier à Paris. Autour de la table également Eva Rock, Ève Roger et Fred Goetti. Or, comme disait Depardieu à Pierre Richard dans La Chèvre...
Il y en a un ou trois qui vont en prendre plein la gueule.
Mais qui ? En attendant la réponse, je propose qu'on parle télé et écran. Mathilde Amé, avant de devenir une auteure et metteur en scène à succès, vous avez eu une longue carrière au cinéma, également sur le petit écran.
Moi, quand je vois... Une très longue carrière.
Une très longue.
Effectivement. J'ai commencé, j'étais très très jeune.
C'était l'époque du muet d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de comédie, à mon goût. On en parlait tout à l'heure.
Ouais, ouais. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai que j'étais pas hyper drôle non plus. Faut dire ce qui est quand même.
Quand on voit aujourd'hui la trajectoire qu'a prise votre carrière, on se dit que peut-être la prochaine étape après le théâtre, ça pourrait être une série, par exemple.
Comme réalisatrice.
En tant que réalisatrice,
ah ouais.
Vous y pensez pas ?
Je pense à la réalisation. Si, si, je pense à la réalisation, mais je pensais cinéma. Alors,
mais vous pouvez penser cinéma aussi, oui, je veux dire, parce que les séries sont à la mode aujourd'hui. Il y a des très belles choses qui se font sur Netflix,
tout ça. Ça, c'est vrai.
Il y a les moyens qui sont aussi dans la série plus qu'avant. Donc,
oui, et puis des sujets.
Des sujets
plus
aussi.
Plus larges. Ça va plus loin, je trouve.
En tout cas, rien dans les tuyaux pour le moment.
Pour
pas
l'instant.
De message à envoyer aux producteurs pour l'instant.
Quelle est la série qui vous a marqué ces derniers temps?
J'ai pas assez de temps pour me plonger. Là, je suis tellement en immersion dans mes projets à chaque fois. Je crois que je suis passée à côté de pas mal de séries. Hein. Je ne saurais pas dire.
Bah, grâce aux plateformes, vous pouvez les revoir à l'infini. Hein. C'est l'avantage. Hein.
Grâce aux plateformes, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi vous engueuler chaque soir 17 minutes.
Oui.
C'est la statistique fournie par l'Université d'Oxford. On passe chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour choisir ce qu'on va regarder sur les plateformes de VOD. Heureusement, il y a Eva Rock et 17 minutes de gagner. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Alors, je commence par l'agacement du jour.
Ah oui,
je vous explique, on est le 3 janvier. Donc, si les chaînes pouvaient arrêter avec les bêtisiers,
oh oui,
et
les bêtisiers,
surtout
c'est insupportable.
Les classements, C8 par exemple, ce soir va enchaîner 2 programmes de ce genre, les 20 émissions qui ont marqué les Français, puis les 20 chansons préférées des Français. Alors, je trouve ça usant et usé comme format. Franchement, ça m'agace. Je comprends pas l'intérêt. Aujourd'hui, au moment où on fait des séries extraordinaires, comment on arrive à faire des programmes pareils? Bon, enfin, je voulais vous parler d'un programme qui lui mérite le détour. C'est France 3 qui a trouvé une recette un peu plus réussie. C'est à 21h05 ce soir, un documentaire fleuve sur la genèse justement des feuilletons et des séries françaises. Depuis la première fiction télé qui s'appelait Nostradamus, on était en 1950, jusqu'à Fais pas ci, fais par ça. Alors c'est un film très long, 2h25, un peu trop long à mon sens, mais qui contient heureusement des pépites, comme cet extrait de Thierry Lafronde. Alors Thierry Lafronde, incarné par Jean-Claude Drouot, dans l'épisode qui suit, on est en 1965, et écoutez bien, il est face à une petite fille qui est trop mimi.
Non, Thierry Lafronde. Et toi, comment tu t'appelles?
Isabelle, tiens.
Tu t'appelles Isabelle?
Ah oui. Je connais bien.
Ah oui?
Ah oui.
Est-ce que vous savez qui est cette petite Isabelle?
Je n'en ai aucune idée.
Elle s'appelle Zabou Breitman.
Ah oui.
Et oui, parce que la série a été écrite par son père, Jean-Claude De Rey, et sa maman jouait également dans la série Céline Léger. C'est une des pépites que vous allez voir. Et il y en a une autre qui date de 1978. Oh, alors là, c'est une série chorale, Médecin de nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, sur Antenne 2. Ça avait été un succès, hein, les histoires d'une équipe de médecins de nuit, un peu le urgence à la française. Plutôt classique, mais au scénario, vous connaissez la personne.
Les scénarios sont écrits par un généraliste. Le docteur Bernard Griden, alias Bernard Kouchner.
Allez, raconte au docteur, il n'y a pas de honte. Même que si ça avait été moi, le meunier, je lui faisais une tête.
Et oui, Bernard Kouchner qui apparaît aussi comme figurant dans cette série qui a connu 5 saisons. Alors les témoignages des acteurs de toutes ces séries, alors ça va de Daniel Evnou à Marc Villalonga, en passant par Gérard Klein ou encore Véronique Jeannot, sont croustillants. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Un peu trop, sans doute. Vous allez comprendre combien. Mais parce
on
que 2h25, bah 2h25,
c'est une
un peu compliqué quand même. Vous allez surtout comprendre comment les séries ont été le reflet des combats de société, à commencer par l'émancipation de la femme. C'est vraiment les séries françaises qui ont suivi ce combat-là. Mais Maggie, il y a une grande partie sur Maggie qui est extraordinaire,
c'est
avec Marc Villalonga, mais qui est géniale, mais franchement.
Bon.
Alors après, je trouve que ça manque de précision, ça manque d'angle en fait. Et toutes les séries de Canal+, et globalement celles des dernières années, depuis 2010, sont totalement absentes du documentaire. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a vraiment eu un renouveau depuis ces dernières années.
Le documentaire a été prévu en 2 parties.
Je me suis vraiment posé la question. C'est un peu dommage, mais sinon c'est sympa. Ça s'appelle La saga des feuilletons et des séries. C'est sur France 3 à 21h05.
Je dis pourquoi pas. 17 minutes de gagner. C'était les conseils télé des Baroques.
Europe 1.
À suivre, c'est une affaire dont vous entendez parler depuis plusieurs jours, l'affaire Matzneff, du nom de cet écrivain qui, jadis, assumait gaiement le fait d'aimer des très jeunes filles et des très jeunes garçons. La parution du livre d'une femme qui raconte avoir été victime de son emprise fait la une de vos quotidiens. Ève Roger vous donne 3 clés pour comprendre cette affaire et ses implications. Et si elle se montre aussi claire qu'hier pour sa chronique sur le mois sans alcool, alors vous risquez de tout comprendre.
Alors on va commencer simplement à qui est destiné ce mois sans alcool. À tous ceux qui ont le sentiment qu'ils boivent plus que les recommandations officielles, que vous connaissez maintenant par cœur. C'est quoi les recommandations officielles?
Pas boire tout pendant 10 jours, non.
Alors c'est 2 verres par jour, qui fait 10 verres.
10, il y avait un 10.
Donc, alors on reprend à 0. 10 verres par jour, pas plus.
Il y a 10 jours.
Non, pas par jour, par semaine.
A tout de suite pour plus de précision. Une chronique très claire en vue avec Ève Roger.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Longtemps femme fatale au cinéma, elle a depuis quelques années mis le cap sur l'écriture et la mise en scène avec un succès qui ne se dément pas. Mathilde Amé et notre équipière sauvage ce soir. Deux pièces que vous avez écrites, Mathilda, se jouent actuellement ou vont démarrer à Paris. Monsieur X avec Pierre Richard au Théâtre de l'Atelier et Le Banquet au Théâtre de Paris. Un point commun, on le disait, un univers onirique, sans dialogue, confinant parfois au surréalisme. En voyant ces pièces, en voyant votre succès au théâtre, on pense à votre père. Vous êtes la fille d'un dramaturge, Victor Haïm. Et parce que Mathilde Amé n'est pas votre vrai nom, on n'en a pas parlé. C'était un nom, c'est le premier producteur qui vous avait suggéré ce...
Ouais.
Alors, je bifurque là-dessus. Oui. Comment ça se fait que vous ayez accepté ce changement de nom et que vos parents aient cautionné ça? Ils auraient pu dire « t'es gentil, Coco, si tu veux
ouais,
notre fille dans un film. »
C'est une vraie question.
Elle garde son nom. Enfin, pourquoi ?
Ils étaient trop impressionnés.
Mais votre père
et ils pensaient qu'un producteur savait mieux qu'eux ce qu'il fallait, ce qui était bien ou pas bien. Et puis, vous savez, mes parents sont immigrés. Ils ont toujours fait un petit peu profil bas pour ne pas faire de vagues. Donc quand un grand producteur dit, leur dit et nous dit « Non, mais c'est mieux que Haïm », il ne pense pas une seconde que...
Vous l'avez regretté par la suite ou vous êtes fait à ce nom?
Oui, parce que ce n'est pas une décision réelle, ce n'est pas une décision de ma part, ce n'est pas une décision de la part de mes parents, c'est un producteur qu'on ne connaissait pas qui l'a décidé. On aurait très bien pu dire « Non, on tient à ce nom-là ». Après, ça m'a valu un gros travail sur la question de l'identité, parce qu'un nom, ce n'est pas anodin, un prénom non plus. Déjà, j'avais changé de prénom à l'âge de 8 ans, enfin... on dirait un brouillon, en fait. Mon acte de naissance est un brouillon avec plein de ratures. Donc non, là, ça nous définit, un nom. Ça définit sa lignée. C'est important.
Et je reviens à votre papa, qui est dramaturge.
Ouais.
Il doit être tellement heureux de voir le tour qu'a pris votre carrière et ce que vous faites aujourd'hui.
Je pense, oui. Ils sont tous les
deux... Il ne vous
le dit pas? Ils viennent voir mes spectacles.
Qu'est-ce qu'il vous dit?
Oui, il est fier, mais il est très pudique. Et puis, il est dans un autre registre, lui, de la parole, du texte. C'est vraiment un auteur. Bon, j'ai fait en sorte de ne pas rivaliser.
On disait tout à l'heure aussi, et moi j'attends de vous voir dans des rôles comiques. Vous étiez écrit un rôle comique dans Et plus si affinité avec Pascal Légitimus. Moi j'attends un autre rôle comique, parce que je pense que vous avez un gros potentiel de ce côté-là aussi. Ah. Elle aussi passe très clairement à côté d'une carrière comique. Elle est une sorte de Jacqueline Maillan qui s'ignore. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, est notre dernière compétitrice ce soir, et pas des moindres. Parmi les journalistes de la rédaction, c'est même une de celles qui prend la compétition le plus au sérieux, passant plus de temps à débattre du comptage des points qu'à préparer ses sujets. Comme on avait pu le constater le vendredi avant les vacances, où elle avait posé l'épineuse question de la pondération des points en fonction du nombre de participations.
Est-ce que ça sera au prorata des participations?
Non, parce que si on fait au prorata, je suis cinquième.
Et moi, Mathieu, je suis combien si on fait au prorata?
Bah oui, mais enfin bon, il y a un moment.
Ève, je vais vous rassurer, pendant les vacances, j'ai étudié le règlement et sur cette question du prorata, j'ai tranché. On va maintenir le flou, comme ça le 28 juin, je pourrai décider au dernier moment sur un coup de tête qui sera sacré champion. En attendant,
le maître.
Je suis le maître des horloges, exactement. En attendant, vous nous proposez aujourd'hui, Ève, d'y voir plus clair sur une affaire bien sombre.
Oui.
L'affaire Matzneff. Pourquoi le scandale n'éclate que maintenant? Et la première question que je vous pose.
Eh bien, tout simplement parce que c'est la première fois qu'une l'une des victimes de Gabriel Matzneff prend la parole. Et c'est dans ce fameux livre, Le Consentement, signé Vanessa Springora. C'était au milieu des années 80. Elle avait entre 13 et 15 ans. Elle y raconte l'emprise de Gabriel Matzneff, qui lui avait 50 ans. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois qu'on entend une autre version de l'histoire. Jusque-là, on avait le côté pile, l'écrivain mondain, censé, invité sur tous les plateaux télé. À l'époque où il raconte ses relations sexuelles avec de très jeunes filles, mais aussi de jeunes garçons. En toute impunité, lui parle d'amour, de séduction réciproque. Et là, voilà le côté pile, celui des victimes, le ravage de cette emprise psychologique et sexuelle de cet ogre, dit Vanessa Springora, l'ogre, elle qui a 47 ans aujourd'hui, a encore tellement de mal à s'en remettre. Alors pourquoi aujourd'hui seulement, plus de 30 ans après les faits? À cette question, elle répond qu'elle avait besoin d'attendre, elle a besoin d'être mère, puisqu'elle a aujourd'hui un petit garçon, un adolescent de 14 ans, qu'elle avait peur des répercussions sur sa vie professionnelle, elle est quand même directrice des éditions Julliard, et puis elle avait peur aussi de s'opposer aux admirateurs de Gabriel Matzneff.
Alors, quelles sont les conséquences de ce scandale pour Gabriel Matzneff lui-même?
Alors, côté justice, sur le cas Springora, précisément, l'écrivain ne craint rien. Il ne peut pas être poursuivi parce qu'il y a prescription. Non. C'était il y a beaucoup trop longtemps. Mais l'écrivain pourrait être inquiété si de nouvelles victimes des années 2010 portaient plainte. Beaucoup de témoignages sont arrivés à Vanessa Springora depuis que le scandale a éclaté. Donc ça, c'est pas complètement impossible. Côté financier, c'est une autre histoire. Gabriel Matzneff pourrait bien sentir passer la polémique sur son compte en banque. Ce n'est pas qu'il vende aujourd'hui beaucoup de livres. C'est aujourd'hui un vieil écrivain malade de 83 ans qui a disparu des écrans radars. Il habite dans un logement social de la ville de Paris depuis 25 ans. Mais il perçoit du Centre National du Livre, donc du ministère de la Culture, une allocation. Et cette allocation qui est autour de 8000 euros en moyenne par an, ils sont 18 aujourd'hui en France à la recevoir, eh bien le ministère de la Culture l'a dit, il l'a prévenu, il va sans doute lui enlever cette allocation qu'il aurait pu toucher jusqu'à la fin de sa vie.
Qu'est-ce qui garantit, quelque part, Ève-Roger, aujourd'hui que ça ne pourrait pas recommencer, ce genre de...
Eh bien, sur le papier, rien. Parce qu'à l'époque aussi, les relations sexuelles entre un adulte
la loi n'a pas changé.
Et les mineurs de moins de 15 ans était interdite. D'ailleurs, Gabriel Matzneff a vu plusieurs fois débarquer chez lui la brigade des mineurs. Il a été souvent entendu, mais à chaque fois, j'ai lu hier que la brigade des mineurs s'excusait d'avoir dérangé le grand homme. Non, ce qui change tout aujourd'hui, ce sont les mentalités. Si un écrivain aujourd'hui écrivait dans un livre la même chose, c'est-à-dire des relations sexuelles avec un mineur, immédiatement, la justice, soutenue par les associations de protection de l'enfance, monterait au créneau et ouvrirait une enquête. Et la caisse de résonance, non seulement des médias, mais aussi des réseaux sociaux, fonctionnerait à plein. Et on est tous aujourd'hui, moi je dirais, des Denise Bombardier, vous savez, cette écrivaine québécoise.
Qui était sur le plateau. Hein.
Qui était sur le plateau de Pivot et qui était la seule à s'insurger contre l'écrivain pédophile.
Mathilde Amé, on est un peu soufflé par cette histoire. Enfin, moi, évidemment, je n'ai pas connu cette époque, j'étais enfant. Mais ça paraît tellement. Ça ressemble à de la science-fiction. Enfin, on dénonce souvent le politiquement correct aujourd'hui, mais parfois le politiquement correct a du bon. Enfin, juste comment, à l'époque, on pouvait considérer les enfants comme des partenaires sexuels viables pour des adultes. Enfin, ça me paraît aberrant. Je ne sais pas, pour ceux qui ont.
Il y a une réponse. Qui est lié à l'époque, on était dans la période de post-68, il est interdit d'interdire.
Mais interdit d'interdire entre adultes, je veux bien qu'on fasse n'importe quoi.
Alors, à l'époque, vous savez, l'enfant a une sexualité, c'est une sexualité d'enfant.
Mais qui se découvre et qui doit être avec d'autres enfants.
C'est ce qu'on a souvent dit ici. Mais à l'époque, on pensait qu'il fallait aussi donner la liberté aux enfants d'avoir cette liberté sexuelle. Et eux, la construction sexuelle, c'est de se construire auprès des adultes et c'est à l'adulte de dire non. Et à l'époque, cette construction sexuelle, on ne la connaissait pas. Ou en tout cas, on n'en avait pas conscience. Même Françoise Dolto a signé cette pétition pour valoriser, disons, la pédophilie. Ouais, ouais. Donc c'était vraiment une construction intellectuelle et idéologique qui n'était pas la même que celle d'aujourd'hui.
Merci Ève Roger, je n'ai pas de chute drôle à tout ça. Eva Rock peut-être ?
Pas drôle du tout, mais juste un petit conseil de lecture parce que j'ai trouvé le papier incroyable de Sophie Fontanelle qui a signé un article dans l'Obs, sur le site de l'Obs, là-dessus, sur cette histoire, sur ce type de problème-là. Et le papier est vraiment remarquable. Ça vous donne une autre lecture aussi des rapports que peut avoir une adolescente qui découvre son corps et sa sexualité autour de 12-14 ans. Face à un adulte qui lui plaît. Et elle raconte cette histoire-là, et c'est assez formidable, ça donne un autre point de vue sur cette question.
En tout cas, on vit une période où les langues se délient. Ça concerne aussi le milieu du cinéma. On pense à Adèle Haenel, ses déclarations récentes. Mathilde Amé, vous qui avez été au-delà du sexe symbole dans les années où vous faisiez du cinéma, vous avez été confrontée à ce problème vous-même. Vous avez rencontré des réalisateurs qui ont voulu abuser de leur position par rapport à vous. C'est quelque chose que vous avez
vécu ? Ça ne s'est pas traduit par des actes sexuels. Ça s'est traduit par une prise de pouvoir évidente et des humiliations récurrentes. Ça a été vraiment un écrasement relativement. Et il y a eu des rapports de force constants. Ça, j'ai été confrontée pendant 30 ans. Le statut de jeune fille dans la société, il y avait beaucoup de mépris autour de la personne que j'incarnais aux yeux de certains hommes, de beaucoup d'hommes d'ailleurs. J'ai été confrontée à un photographe qui a heureusement qui ne m'a pas touchée, mais qui avait l'intention de le faire. Ma mère a eu le réflexe de m'accompagner, heureusement, et c'est ce qui m'a sauvée. Mais je trouve formidable qu'aujourd'hui, la parole se délie autour de ce sujet absolument essentiel. Et les femmes souffrent beaucoup de la puissance masculine et des rapports de force. Je trouve que ce qui se passe en ce moment est absolument nécessaire. Je crois qu'on ne pourra plus retourner en arrière.
Il n'y aura pas de retour en arrière possible, c'est la question. Parce que certains disent, c'est les hommes sont comme ça, etc. Et il va y avoir des cycles et on va revenir en arrière. On espère que non.
Je pense que c'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, ça paraît fou. Oui. Hein, aujourd'hui, on se dit, mais comment on a pu...
On a pu tolérer ça. Voilà. Ève Roger, je vous remercie. Votre éclairage sur l'affaire Matzneff vous permettra-t-il de l'emporter ce soir et de reconquérir cette première place qui est la vôtre, Ève. Je vous le dis. Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, vous l'avez aimé hier dans ce rôle à contre-emploi où il vous donnait la recette d'un potage détox à base de choux pour vous remettre des excès des fêtes. Eh bien, lassé des rôles de composition, aujourd'hui notre expert gastronomie Olivier Pouls revient à ses fondamentaux, le gras et le sucre. Il vous explique comment réaliser vous-même votre propre galette des rois. Bye bye détox.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'allégresse informative rythmée par un combat épique opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent à coups de chronique. 2 heures également pour apprendre à mieux connaître un invité vedette. Des invités qu'on découvre souvent ici sous leur meilleur jour, comme Clovis Cornillac, venu nous présenter il y a quelques jours un nouveau film dans lequel il incarne un vétérinaire. Un film où son goût pour les animaux a pu s'exprimer pleinement. Et quand je dis son goût, c'est à dessein.
Elle est dingue la scène du volage.
Ouais,
Elle est très belle.
Parce que elle a.
Elle l'a vraiment fait. Ouais.
Elle a vraiment fait.
Ouais. Il y avait une velleuse à côté.
Oui, je m'imagine bien.
Mais il n'empêche qu'elle le fait vraiment. Ouais. Ah ouais, elle lutte et puis c'est vrai, elle l'a vraiment accouché. Ça fait que le veau, c'est le premier regard qu'il a eu, c'est sur elle.
Et elle l'a gardé.
Non, mais il était délicieux et c'est vrai qu'elle.
Aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas Brigitte Bardot, mais Mathilde Amet qui nous accompagne. Mathilde Amet qui met en scène Pierre Richard au théâtre de l'Atelier à Paris. Je crois que vous l'avez compris, ce qu'on a pu en dire de cette pièce depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut aller la voir. Une question éminemment pointue me vient. Il est comment Pierre Richard dans la vie ? Ça, c'est une belle question qui, d'ailleurs, devrait m'orienter rapidement vers le prix Pulitzer. Mais c'est une question qu'on se pose. C'est une telle figure qu'on a l'habitude de retrouver à la télé, dans les films qui sont rediffusés constamment. On a envie de savoir, vous qui le fréquentez.
Vous avez
au quotidien.
Deux jours devant vous, parce que là, je veux dire, j'ai une liste de qualificatifs interminables sur cette personne exceptionnelle. D'abord,
qu'est-ce qu'on ne sait pas de lui ?
Bon, alors, c'est une figure, hein, c'est une légende. Il a zéro ego, mais zéro ego, il se met au service du spectacle, là je l'ai vu dans le travail, il a un courage, il est sans limite, il a peur de rien, il y va, il est imaginatif, créatif, ça je pense qu'on s'en doute, il est humainement absolument exceptionnel, il a une sorte de saine distance sur les événements, il s'amuse de tout, il est prêt à tout, enfin... C'est vraiment une des plus belles rencontres de ma vie.
C'est vraiment plus un artiste qu'une star. Quoi. Il n'a pas du tout le côté star qu'on peut avoir, alors qu'il pourrait lui.
Alors que la célébrité déforme. La célébrité déforme et fait des gros dégâts. Moi, je l'ai constaté souvent, hein, même sur moi-même.
Même sur vous-même, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez eu un peu la grosse tête ?
Je sais pas, c'est un peu réducteur de dire grosse tête. Non, c'est juste que ça change les rapports aux autres. Les autres sont, enfin, tous les regards sont braqués. Ouais. Ça implique beaucoup une construction différente de soi. C'est un rapport à soi qui est perverti par le regard braqué. Enfin, c'est anormal comme situation. Ça rend fou. Moi, j'ai croisé énormément de gens célèbres. Complètement tordus, qui n'arrivent plus à s'intéresser à l'autre. Ils sont tellement habitués à ce qu'on s'intéresse à eux. Ils perdent la curiosité, ils perdent le sens de l'intérêt, l'observation de l'autre. Lui, il est au taquet, à l'affût de tout, s'intéresse à mille choses. Il est très impliqué sur l'écologie, sur la politique. Et puis, il a une espèce d'humour absolument dévastateur. On faisait des barres de rire toute la journée. C'est quelqu'un de... Toute l'équipe a été soufflée par la façon dont il s'est investi aussi sur ce projet, avec quelle dynamique, sans jamais se décourager. Ça, c'est une des grandes leçons. Je l'ai vu absolument actif, à tout essayer, sans peur et sans se décourager.
Ce qui veut dire que c'est vraiment pas un rôle de la facilité pour lui. C'est vraiment c'est extrêmement exigeant. C'est...
Ouais. Et d'ailleurs, je précise, il a 85 ans. Non, 85 ans.
Ça, on l'oublie.
Quand on le voit sur scène pendant 1h10 où il n'arrête pas.
Quand je pense qu'il y a certains comédiens avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit qu'ils étaient fatigués, j'ai envie de les gifler rétroactivement parce que franchement, lui, mais jamais je l'ai entendu dire ça.
On embrasse Pascal Légitimus. Non, je rigole. Pascal, si tu nous écoutes. Pierre Richard est à l'affiche de Monsieur X au théâtre de l'Atelier. Mathilde Amet, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, après le trio maudit, tartiflette, chapon, bûche choco, le constat s'impose à chacun d'entre nous, ce tragique constat que faisait déjà Jean-Pierre Marielle dans Comme la Lune.
Et oh poussin, trouve pas que j'ai un peu repris là. J'ai plus mon damier comme d'habitude. Ouais, peut-être que je repasse au dégraisseur, non ?
Bonne idée, mais convenez qu'il serait sot d'entamer un régime le vendredi, on fera plutôt ça lundi après la galette des rois, car Olivier Pouls, notre expert gastronomique, ne badine pas avec les traditions. L'épiphanie sans galette, ce serait comme un sapin sans boule. Voilà pourquoi il arrive avec ses plaquettes de beurre et son rire, beurré lui aussi. Délice in extremis arrive juste après. Prince, Kiss sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui soigne vos zygomatiques, cajole vos neurones et trouve même le temps d'exciter vos papilles. Oui, c'est l'heure de Délice in Extremis, la recette dernière minute qui vous sauve la mise. Mathilde Amet, vous signez, on l'a dit, au tête de l'atelier Monsieur X avec Pierre Richard et une musique originale. On en a parlé également d'Ibrahim Malouf, trompettiste de génie que nous avons reçu ici. Et avec Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, la rencontre a été magnifique. Jusqu'à ce qu'Olivier tente de prononcer le nom d'un plat libanais. Là, on peut le dire, la barrière de la langue a un peu cassé l'ambiance.
Et est-ce que vous connaissez, alors c'est pas un mauvais jeu de mots de Mathieu Noël, les ricaca?
En fait, ça se prononce pas comme ça, en fait. C'est l'arabe, ça se dit ra'at.
Vous pouvez redire
ra'at, ouais.
Ah oui, non, ça, là, oui.
Bonjour, Sidi Pouls.
Mais, rigole.
Mais ne riez pas, dites bonjour quand même.
Bonjour les amis, bonjour Mathilda. Mais ça va être un peu plus facile à prononcer aujourd'hui. Ah. Galette des rois, ça se dit de manière assez simple, je pense.
Oui, dès qu'il y a du beurre, vous êtes plus à l'aise.
Pas de traduction.
Alors dites-moi Olivier, on peut préparer soi-même sa galette des rois?
Ben oui, évidemment. Alors, des galettes des rois, il en existe en fait de plusieurs sortes, puisque la France se divise, on va dire, en trois grandes catégories. Vous avez ceux du Nord qui mangent cette galette qui est constituée de pâte feuilletée et de frangipane, qui est un héritier d'un gâteau du XVIIIe siècle qui s'appelle le pitivier. Et c'est la grande majorité des galettes des rois qu'on va trouver. Mais ma chère Eva, par exemple, vous qui êtes du Sud, vous ne mangez pas ça, vous en mangez une autre galette.
Oui, on mange la galette briochée avec les fruits confits.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh oui.
Oh !
Oui, c'est très
bon. C'est sacrilège.
Non, c'est très très bon.
Eh oui, c'était pas exactement la même. Et puis dans l'est de la France, il y en a même une troisième, et c'est celle-là que je vais vous proposer de faire parce qu'en réalité, c'est la plus facile. La vraie galette traditionnelle avec la pâte feuilletée, avec la frangipane, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. On va plutôt aller la chercher chez son excellent boulanger-pâtissier. Mais la galette franc-comtoise, qui est une délicieuse galette, est extrêmement simple à faire. Et c'est la recette de celle-là que je vais vous donner, et vous allez pouvoir, dès ce week-end, la réaliser, mettre votre petite fève dedans et puis tirer les rois. Je ne sais pas qui va aller sous la table chez vous, Mathieu, mais en tout cas, je vais vous donner la recette.
Eh bien oui, ben on a hâte, Olivier. Vous créez des moments de suspense dans votre chronique, c'est tout à votre honneur. Hein. Là, je reconnais là le dramaturge, mais néanmoins, allez droit au but, donnez-nous la recette.
Eh bien voilà, roulement de tambour. En réalité, la recette de la galette franc-comtoise, c'est la recette de base de ce qu'on appelle une pâte à choux. Donc il vous faut 4 œufs, il vous faut 1 demi-litre de lait, toujours entier, hein, un peu plus gras que le lait demi-écrémé, vous m'excuserez, mais c'est quand même le goût. 200 g de beurre, il vous faut 50 g de sucre en poudre, et puis surtout, ce qui est important dans cette galette, c'est l'extrait de fleur d'oranger. C'est ça qui va parfumer et donner ce goût si caractéristique à la galette franc-comtoise. Alors c'est très simple, hein. On casse nos œufs, on rajoute le lait, on fait fondre le beurre tranquillement, on rajoute le sucre, on mélange tout ça, on fait une jolie pâte qui doit être bien lisse sans le moindre grumeau, on rajoute un petit peu d'extrait de fleur d'oranger et puis on met ça dans un moule à gâteau. On va légèrement dorer le dessus avec un petit peu de jaune d'œuf qu'on aura gardé pour dorer votre galette quand elle va commencer à cuire. Donc four 180 degrés, vous enfournez pendant 25-30 minutes et à mi-cuisson, au moment où vous voyez que la galette a commencé à prendre, avec un petit pinceau, vous la badigeonnez pour lui donner une jolie couleur dorée. Vous n'aurez évidemment pas oublié d'aller glisser une petite fève dedans juste avant de la préparer, enfin de l'enfourner. Et puis, il n'y a plus qu'à la déguster. Elle se déguste chaude ou elle se déguste tiède. Et vous allez voir, c'est une texture qui est très intéressante. C'est une galette facile à faire et que je trouve personnellement absolument délicieuse parce que j'adore la fleur d'oranger.
C'est la question que tous nos auditeurs fidèles se posent. Est-ce que c'est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur?
Alors, ça peut être légèrement croquant à l'extérieur, mais ce qui est sûr, c'est que c'est totalement moelleux à l'intérieur. Et puis, c'est surtout une galette un peu originale.
Ah, c'est bien l'essentiel.
Qui vous permettra de, quand même de vous la ramener un petit peu en disant, il n'y a pas que de la galette des rois à la frangipane et avec de la pâte feuilletée. Il y a aussi cette galette très typique et très traditionnelle qu'on sert dans l'Est de la France.
Merci beaucoup Olivier Pouls, et vous passerez à la maison, c'est vous que je mettrai sous la table pour choisir la part de tarte,
la part
de galette des uns et des autres. En tout bien, tout honneur, évidemment, mon cher Olivier, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
C'est bientôt la fin d'un suspense asphyxiant, car oui Eva, le moment que nous attendons tous arrive.
Ah, l'apéro?
Non Eva, non, enfin aussi, mais d'abord, dans un premier temps, nous allons découvrir qui a été élu chroniqueur du jour, qui parmi nos 4 journalistes en compétition va avoir la chance d'hériter d'une couronne en plastique pourri avant même d'avoir tiré les rois. Ne bougez pas.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'était une joie et un honneur cette semaine de démarrer 2020 avec vous. C'est pourquoi, au moment de vous quitter, comme je sais que vous partagez, chers auditeurs, mon goût pour la grande musique, je vous re-souhaite
la bonne année.
Bonne année à vous, à Mireille, et bien sûr à celle qui était notre invitée d'honneur aujourd'hui, Mathilde Amé, et qui, je le sais, a trouvé l'émission...
à poil gênante.
Non, génial, génial, c'est ce qu'on avait dit en antenne qu'on dirait.
C'était ma voix.
Génial, c'était votre voix. Soyons positifs pour 2020, les années, l'heure est venue de découvrir, parmi les 4 journalistes en compétition aujourd'hui, qui va repartir coiffé de la plus ou moins prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. C'est le moment fatidique du quitte ou double. Ève Roger, pourquoi Mathilde Amé devrait voter pour vous?
Eh bien, en accord avec mes nouvelles résolutions, je vais dire qu'il ne faut pas voter pour moi. D'abord pour ne pas valoriser Gabriel Matzneff, et puis pour aider ceux qui sont au fond du classement, en l'occurrence Fred Goetti.
Oh, c'est drôlement vicieux, c'est drôlement vous, Ève Roger.
La perversion incarnée.
Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous?
Mais pour moi, peut-être pas, mais si vous le faites pas pour moi, faites-le pour Joe March.
Le regard de chien battu par en dessous que vous avez jeté à Mathilde Amet était terrible. Fred Goetti.
Certes, j'ai choisi un groupe qui rallie tous les suffrages, oui. Mais j'ai pris le risque de raviver un souvenir douloureux, celui de la fin des Beatles. Mais c'est de tout mon cœur que je vous ai raconté cette histoire qui colle encore au cœur et au corps de centaines de millions de fans à travers le monde.
Waouh, lui c'est le seul qui prépare son kit au double. C'est pour ça que je vote toujours pour lui. Anne Le Gall, pourquoi on voterait pour vous aujourd'hui?
Parce que lutter contre les tomates qui poussent dans des serres chauffées en hiver, c'est quand même du bon sens. C'est une bonne résolution pour 2020 et voter du coup pour ce sujet, ça ne devrait pas nous faire rougir. Tomates rougir.
Oh là là.
Non, j'aurais pas dit. Ah, j'aurais
c'est
pas dit.
C'est Jérôme Commandeur. Un message de Jérôme Commandeur. De mieux en mieux, Anne Le Gall. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors ça a été très très serré, mais vraiment serré à 1% près. C'est Nicolas Caro avec les romans jeunesse qui a remporté 2 points face à Fred Goetti quand même, 1 point d'écart.
Ouh, c'est surprenant. Je dirais que c'est un résultat surprenant. Pour ma part, j'attribue mon point aujourd'hui à Fred Goetti, comme d'habitude. N'hésitez pas à me justifier. C'est ça qui est pratique quand on est le chef. Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui a en réalité le dernier mot.
Oh,
Mathilde Amet, votre voix compte triple. Pesez minutieusement le pour et le contre, car même les CDI ne sont pas éternels. Et votre décision aura des conséquences sur leur parcours professionnel.
Sur leur carrière.
Exactement.
Oh, j'ai une petite fille à nourrir.
Moi,
ah, le coup de la petite fille à nourrir, on ne l'avait pas encore fait. Vous en avez deux, Anne. Qui dit mieux? Qui dit plus de 2 enfants? Non.
C'est d'une cruauté
c'est
sans
terrible.
Nom. Quoi.
Qui, selon
une
vous, mérite
violence.
De remporter cette couronne pourrie?
Allez, moi, je vote pour Anne Le Gall.
Anne Le Gall,
elle contribue à la prise de conscience collective de tout sur ce sujet absolument nécessaire, vital, urgent. Voilà.
C'est vrai. Eh bien donc, c'est merci Anne Le Gall qui remporte la 86e journée de l'équipée sauvage. On remercie Mathilde Amet d'avoir joué le jeu. Courez voir Le Banquet au Théâtre de Paris à partir du 14 janvier. Monsieur X avec Pierre Richard, ça c'est au Théâtre de l'Atelier.
Oui, jusqu'au 8 mars, il y a eu relâche du 7 au 14 janvier, mais après vous pouvez y aller.
Et
avant aussi.
Et avant aussi, bien sûr. Merci également à tous mes journalistes, Eva Rock, Ève Roger, Anne Le Gall, Fred Goetti et Nicolas Caro. L'équipée sauvage revient bien sûr demain, 16h.